Il est 18h, salut tout le monde, c'est Enzo, ravi de vous retrouver pour Pleine Balle, votre rendez-vous 100% balle jaune sur Radio Phoenix. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, puisque le programme du soir est gargantuesque, n'ayons pas peur des mots. L'émission est bien sûr consacrée à cette édition 2026 de Roland Garros, probablement le grand chelem le plus fou depuis très longtemps. Entre canicule, match à rallonge et hécatombe chez les favoris, le scénario de ce Roland est digne d'une super production hollywoodienne, des défaites prématurées, des deux numéros 1 mondiaux, une qualifiée qui va peut-être repartir avec le trophée, un quart de finale chez les messieurs entre deux joueurs en dehors du top 100. Bref, un joyeux bazar. On va essayer d'aborder le maximum de choses sans faire une émission de 4h30. Sacré challenge en perspective. Et pour garnir cette émission, la rédaction vous a mijoté ses meilleures préparations avec des chroniques bien assaisonnées et un petit quiz bien relevé comme il le faut en guise de clou du spectacle. Ce soir donc, plus que jamais, pas une seconde à perdre, Pleine Balle épisode 52, c'est parti.
Silence, silver play.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours.
That's good stuff. All out of 10 from Federer. Et une émission aussi exceptionnelle ne pouvait pas avoir lieu hein, sans un casting au grand complet. Saluons tout d'abord l'admin du compte Zviatek France sur Twitter qui a choisi de changer son pseudo ces derniers jours hein, pour soutenir la polonaise du moment, on va y revenir. C'est Marine, comment ça va?
Je suis très heureuse de voir une polonaise en finale.
Ce n'est pas ta
joue pourtant. Je prends.
Tu prends quand même?
Ouais.
Tu retournes ta veste donc ça y est c'est fini, ce n'est plus...
Non je retourne pas ma veste, j'élargis mes horizons.
D'accord, c'est bien.
Mais on reste,
tu enlèves tes œillères.
On reste en Europe de l'Est quand même.
Ouais, faut pas déconner.
On va pas abuser non plus.
Eh bien, ravi de t'avoir avec nous ce soir pour cette belle émission. Pour lui, la quinzaine de Roland commençait sur les chapeaux de roue. Cilic, Bautista Agut et Wawrinka first. Bon, mais tout va mieux depuis, hein, puisqu'il avait annoncé le boycott du tournoi par les favoris. C'est un bon prono de sa part.
Pour une fois que j'ai quand même bon sur un prono.
Comment ça va, Richie?
Ben ça va, ça va. Écoute, la semaine se termine. On est tous contents d'être un peu en week-end, là, je crois.
Ah ouais, franchement. Ouais.
Enfin, un peu beaucoup même.
Oui.
Donc, très heureux de pouvoir parler tennis. En commençant ce week-end.
Ouais, voilà. Puis franchement, un prono que tu étais le seul à avoir annoncé.
Ah ben voilà, franchement, parfois, celui-là. Moi, j'étais au bout de mes idées, tu vois.
Ben ouais, là, mais tu l'as tenté.
Bah, il reste plus que Zverev, mais j'ai bon espoir pour qu'il s'effondre quand même avant dimanche 18h.
Ah, voilà. De toute façon, ce sera dimanche, on va y revenir dans quelques minutes. Et enfin, je salue notre expert du double et des cordages de Gaël Monfils. Hein, c'est un peu notre intermittent du spectacle à nous. Un coup, il est présent, le reste du temps, il est dehors. On dirait le revers de Félix Auger-Aliassime. C'est Simon qui nous parle depuis un poste un peu particulier ce soir.
Ah ouais la team.
Eh ben oui parce que visiblement.
Et je fais la technique.
Voilà, tu fais la technique.
Je fais la technique.
Il est partout.
Il est partout. Il est polyvalent, c'est un vrai couteau suisse finalement.
Si près mais si loin.
Il y a une vitre qui nous sépare, ça me fait peur.
Il est toujours aussi beau même derrière la vitre.
Ouais, oh les gars, arrêtez.
Peu importe où il est.
Franchement, il brille. Il reste plus.
Je vais faire brûler la technique.
Et c'est quoi cet accoutrement là, dis donc là?
Je suis venu en maillot de foot.
Ouais, alors... mais celui de l'équipe de France, c'est bientôt la Coupe du Monde là. Qu'est-ce que c'est que ce maillot là?
Mais tu connais pas mes origines, mon grand.
Pour nos auditeurs et auditrices, Simon est vêtu d'un superbe maillot de l'Allemagne.
De l'Allemagne.
De la Mannschaft.
Yeah.
Avec le fameux flocage.
1, 2, 3.
Voilà. 1, 2, 3, évidemment, numéro 3.
Comme on dit.
Comme
on dit à Köln.
À Köln, évidemment. Et à Stuttgart aussi.
Oui, aussi, c'est
évidemment
vrai.
À Stuttgart.
Et à Berlin, Ichmelin in Berlin, ja. Yeah.
Tout à fait.
Toujours. Bref.
Bon, allemand LV1, monsieur.
Allemand. Allemand Ivanov, ouais, c'est ça. Exact.
Ça doit être ça. En tout cas, voilà, vous avez compris, le casting est au grand complet. On fait la bise quand même à Emile, qui décidément ne veut plus faire la technique de cette émission. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs.
Vexant,
mais bon, c'est pas grave.
Je l'ai pas vu depuis 2 mois, moi.
Bah ouais, non, mais bon, voilà. Nous non plus. C'est bon, bah écoutez, je sais pas. En tout cas, c'est pas grave, la bise à Emile, s'il nous écoute, ou s'il veut encore bien nous écouter. Bref. Allez, on y va, direction la porte d'Auteuil. Roland Garros, ça se termine dimanche, donc on a encore 2 jours pour profiter un petit peu. Mais on peut déjà regarder un peu dans le rétroviseur pour se rappeler à quel point ce tournoi est une hallucination collective. Personnellement, j'ai pas souvenir d'un grand tournoi aussi surprenant, hein, de tout point de vue. Je me tourne vers toi, Richie, quand même,
qui est plus vieux.
Merci.
J'allais le dire avec un petit peu plus de grâce quand même. Vu que tu as un peu plus d'expérience.
Oui, dis-nous, voilà. L'ancêtre.
Est-ce que toi, par contre, est-ce que tu as peut-être un souvenir d'un tournoi d'un grand chelem ou d'un Masters 1000, d'un grand tournoi un peu fou comme ça?
Non, perso, à moi, ce point-là, non. À ce point-là, non. À ce point-là, souvenir de quelques grands tournois avec des parcours dingues de quelques joueurs, quelques joueuses ou un joueur, une joueuse. Je sais pas, moi, je pense à Raducanu à l'US Open, ou alors moi, j'avais vibré à l'époque en 2001 devant le Wimbledon de Goran Ivanišević, invité, qui avait traversé le tableau comme jamais il s'était cru pouvoir capable de le faire. Mais là, à ce point-là, non, quand t'as tout le monde qui s'accorde, on se dit bah non, nous les bons, allez, au tapis tous en même temps, et puis t'as quelques surprises comme ça qui arrivent un peu de nulle part. Donc non, à ce point-là, non, jamais.
Ouais,
never.
Ça a l'air quand même assez inédit, en tout cas. De mon faible vécu, je tiens à le dire, c'est inédit.
Est-ce qu'on pose la question à Marine ou c'est pas la peine?
Bah Marine, oui, on peut
alors,
Marine.
J'ai le même vécu. Hein.
Goran en 2001 aussi.
Ouais, non, j'étais à fond, hein. Mais à fond la caisse. Hein.
Andrés Gomez en 90. Ah oui, on l'embrasse.
Et du coup, Simon, si on peut demander à Simon, ouais. Simon.
Bah oui, le challenger de Cagliari notamment, oui, en 2003, moi m'a vachement marqué.
Oui, avec le parcours de...
Ernesto Flamand.
Flamand.
Le fameux. Le fameux Ernesto Flamand.
Depuis en prison. On le salue.
Bah, oui. Il est pari truqué. Bah oui.
Évidemment.
Évidemment. Pari hippique, hein, on parle. Hein.
Bah, oui. Tu as raison de préciser.
Bah faut le dire.
Il faut le dire. Bon, quoi qu'il en soit, ce tournoi, il restera dans l'histoire pour son scénario totalement dingue. Premier élément, et pas des moindres, la première semaine s'est jouée en période de canicule, avec tout ce que cela signifie pour l'intégrité physique des joueurs et des joueuses. Conséquence directe ou pas, le tournoi a aussi été marqué par un nombre de matchs en 5-7 extrêmement conséquent. 31 rencontres sont allées jusqu'à la 5e manche, quand même.
Et bah.
Inutile donc de préciser que ce cocktail sulfureux a fait des dégâts et des victimes. Parmi eux, Yannick Sinner, l'Italien était légitimement archi-favori du tournoi en l'absence d'Alcaraz, et héritier en plus de ça d'une partie de tableau plutôt tranquille sur le papier. Oui, mais voilà, l'impensable s'est produit au deuxième tour alors qu'il était à 4 points du match contre Cerundolo. Pour rappel, il menait 6-3, 6-2, 5-2, service à suivre. Sinner a plongé physiquement. Il n'a marqué que 2 jeux après cela. Et donc à l'arrivée, une défaite en 5-7 du numéro 1 mondial qui stoppe sa série de 30 victoires consécutives. C'est la première immense vraiment surprise de ce Roland dans un scénario difficilement explicable. Enfin, vraiment,
c'est du Spielberg, c'est un cataclysme. On a du mal à croire qu'il n'a pas réussi à aller finir ce match. Il lui restait 4 points, comme tu as dit. Voilà, on ne m'enlèverait pas de l'esprit que pour moi, ça reste son boycott à lui. Hein. J'en suis quasiment sûr. Il s'est dit, je vais le faire avec panache. Non, mais c'est fou, quoi.
C'est un truc de fou.
C'est fou. Et un peu de crédit quand même pour son adversaire.
Ah, Cerundolo a fait son match.
Cerundolo, le petit frère.
Oui.
Parce que bon, il y a quand même eu une tentative de remontada, mais de relevage de tête quand même de Sinner au début du cinquième. Et on s'est dit, bon là, qu'est-ce qui peut se passer? Puis il s'est accroché, l'Argentin.
Ah, oui.
Et finalement, il a enfoncé la tête de Sinner bien en dessous du niveau de la mer. Et voilà, quoi, ça a fini par un cinquième set assez expéditif aussi. Mais ouais, tremblement de terre.
Ah, t'es vraiment trop volontaire.
Terre battue.
Bah, coup de chaleur et problème à la hanche, je crois. Non, il y avait un truc comme ça.
Je crois que c'est problème physique.
On sait pas trop,
je crois. Hein, c'est ça. C'est vrai que la hanche, j'ai cru en entendre parler, mais je suis pas sûr.
Il me semble qu'en
côté.
Conférence, il a dit qu'en gros, il avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien. Et qu'il avait fait exprès de laisser filer le quatrième set pour reprendre peut-être de l'énergie au cinquième.
Ce qui s'entend.
Flop.
Il n'est pas le seul à l'avoir fait.
Mais après, c'est peut-être. On disait la dernière fois son calendrier un peu chargé avant Roland. Peut-être que là, il y a eu une erreur
de sa
part.
Aussi, est-ce que ça peut
il
jouer
Il aurait peut-être dû faire l'impasse sur un ou deux. Parce que voilà, il a enchaîné toutes les victoires, donc tous les matchs. Beaucoup de matchs.
Ça change beaucoup.
Et du coup, je pense que son corps, il a abandonné à Roland, ce qui est du coup un mauvais timing finalement.
Mauvais calcul,
mauvaise programmation. C'est vrai qu'il a complètement explosé, quoi. C'est vraiment le deux jeux. Après, il ne marque que deux jeux.
C'est
complètement dingue.
Et puis vraiment à 4 points du match, quoi. Donc,
Le scénario est fou. Ça veut dire à 5-2, quoi. 5-2,
il a même pas resserré pour 4 petits points, 4 gros services. Non, il n'y avait rien.
Ah oui, c'était un on-off.
Ouais. On-off.
Mais au moins, on a pu voir Sinner jouer un peu différemment. Genre, il montait à la volée.
Oui.
Service volé.
C'est vrai, il faisait que des services volés.
On a pu le voir perdre.
Déjà. Premier branlé.
C'est vrai qu'on ne savait plus trop ce que ça faisait.
Il s'est pris une roue ou pas? Je ne sais plus le score.
Non, 6-5.
Il ne prend pas de roue.
6-5.
Il a sauvé l'honneur.
Mais il s'encourageait. Il avait envie de. Je sais pas, de remonter, il a envie de jouer, de gagner le match. Mais bon,
Bah déjà il a pas abandonné.
Déjà il a pas abandonné.
Ce qui est surprenant.
C'est vrai,
ouais.
C'est vrai que beaucoup on pouvait légitimement croire à l'abandon vu.
Ouais, mais je pense qu'il a voulu aller au bout un peu à l'image de Nadal, quoi, ouais. Qui n'abandonnait jamais. Mais bon, c'était compliqué quand même. C'était compliqué à regarder aussi.
C'était assez bizarre à regarder, je suis d'accord. On ne comprenait pas trop.
Très très triste à voir. Franchement.
Triste de pas trouver.
Oh là là, mais un peu d'émotion.
Je veux pas dire, je suis en mode yes, je suis content. Non, mais non.
Enfin, il perd.
Non, c'était plus bizarre en fait, plus qu'une tristesse ou quoi que ce soit. On savait pas trop justement, je te rejoins Richard là-dessus, on savait pas trop quoi penser quoi.
Ouais, on savait pas si c'était vrai ce qu'on voyait, ce qu'on était en train de voir, ce à quoi on assistait. Ouais, non, complètement dingue.
Et on le salue encore une fois. Crédit encore à la performance de Juan Manuel Chirundolo, qui, non rassasié d'ailleurs par cette victoire, s'est envoyé un match de 6 heures juste après.
Ah oui.
Hein, voilà, voilà. Autour d'après, un petit match de 6 heures tranquille.
Je pense qu'il était un peu frustré de son match précédent.
Je pense qu'il n'avait pas joué assez.
Bah, voilà.
Moi, je pense qu'il n'en avait pas eu assez contre Sinner. Mais en tout cas, ouais, voilà. Yannick Sinner, donc, ne gagnera pas Roland Garros cette année. Et ça, c'est absolument une surprise incroyable.
On a un technicien quand même là, réactif, il appuie sur les boutons au
Émile,
bon moment.
Émile, ne reviens pas lundi.
Émile, reste chez toi.
Je suis bien ici.
Émile qui est en festival d'ailleurs, on parle.
Bah là c'est Simon qui nous offre un festival. Là,
tout Simon,
à l'heure.
Oh là là.
Le festival de Simon. Tu es très très en forme aussi, je te sens particulièrement en forme.
Bah, j'ai fait une heure et demie de bagnole là, ça m'a...
je sens que tu es revigoré.
Il a des choses à dire.
Il a des choses à dire.
La part d'enclair était fluide.
C'était fluide.
Pardon, le tête fluide. Dans les deux sens.
Ah,
ouais.
Voilà. Ouais. N'hésitez pas, donc, info trafic au 0230. Allez, on va continuer quand même sur ce tableau masculin de Roland Garros. La déroute des favoris a permis à d'autres joueurs de tirer leur épingle du jeu, notamment les jeunes pousses du classement PIF qui ont laissé leur trace sur la terre parisienne.
Mais non pas les jeunes PIF, du classement pousses. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. 3 des 8 quarts de finalistes sont nés en 2005 ou après. Ça ne nous rajeunit pas, hein, parce qu'on est tous nés avant cette date-là. Mensik, Fonseca et Rodar, des jeunes pousses aux dents longues qui ont tous réalisé de superbes parcours. Après deux matchs en 5-7, Rodar, sans doute un peu fatigué, a été sèchement éliminé par Zverev. Lui qui découvrait le tournoi, quand même, hein, a perpétué une tradition. 29e année consécutive où on a au moins un Espagnol en quart de finale de Roland. 29e ouais. année consécutive.
C'est fou.
Les gars sont vraiment réguliers. Quoi. Là-dessus, on ne peut pas leur retirer ça. Fonseca, lui, a signé une performance XXL en sortant Joko le Croco au 3e tour, en revenant d'un retard de 2-7 quand même. Hein, il a mené 2-7 à 0. Casper Ruud aussi a rencontré le chemin du Brésilien. Marine, tu veux nous en parler ?
Non, ça va.
Non ? Ça s'est bien passé, non ?
Non, pas trop, mais...
Compliqué.
Non mais ça va, il a pris un 7.
Il a pris un 7.
J'ai eu peur qu'il prenne les 3 sets d'un coup.
Ouais, c'est vrai que quand même. Ça aurait pu faire 3 sets.
Pour l'honneur, il a pris un 7. Après, voilà, Casper, il a eu du mal aussi avec la petite chaleur. On rappelle qu'il est norvégien, il n'y a pas beaucoup de soleil en Norvège.
Il est quand même bronzé, je trouve. Hein.
Oui, moi,
il voyage.
Il a le teint allé.
Il a le teint très allé.
Très allé.
Non, il était pas. Ouais, c'était pas. Après, Fonseca était très très en forme. Pour le coup, il a été impressionnant. Franchement, sur ce tournoi-là, il a été vraiment impressionnant. Donc. La défaite n'est pas si amère que ça.
Bon, il était temps un peu en fait qu'il se révèle pour de bon sur un gros tournoi du Grand Chelem notamment. Ouais, ça y est. Après, j'attends de voir quand même la suite parce que Fonseca, on a été assez subjugué effectivement quand il a sorti Joko, il a fait un super match. Après contre Casper Ruud, très bon match aussi. Mais voilà, moi c'est un joueur j'ai souvent loué son irrégularité. Bon après il est encore hyper jeune, hein. Mais voilà, je m'attendais à ce qu'il ait un coup de moins bien là contre Mensik. Il l'a eu parce que on sent que c'est un joueur qui, quand il est favori de son match, qu'il faut mettre un peu les parties intimes sur la table d'entrée de jeu, tu sens qu'il le gère moins bien, ce rôle-là, ce statut-là. Et voilà, c'était le cas pour moi contre Mensik, parce que c'est vraiment lui qu'on attendait, Stéphane Fonseca. Et finalement, il n'a pas tellement existé contre le Tchèque. Il a été sorti en 3-7 et il n'a pas du tout... je pense qu'il était un peu fatigué, puis il n'a pas du tout su prendre le jeu à son compte, il n'a pas joué avec la même confiance. Il était moins relâché et ça m'a pas trop surpris en fait.
Oui, non, c'est vrai. Mais après, peut-être, moi, perso, le 3-7 m'avait un peu surpris. Ouais. Je pensais quand même que ça allait être un peu plus serré. Mais
sinon, peut-être il était fatigué aussi.
Ouais.
Il y a ça qu'à jouer. Parce que tu vois, dans son premier tour, je crois, Fonseca, il perd 2-7-0. Et après, il remonte il va jusqu'au 5e et il remporte le match. Donc il a quand même un petit mental malgré tout.
C'était des premiers tours. Hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il arrive en quart de finale, il peut être un peu émoussé, surtout qu'il est resté longtemps sur le court. Mensik, moi je voyais pas comme forcément plus je voyais pas Fonseca plus favori que Mensik pour le coup, parce que c'était deux joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir ici. Oui, donc c'est un peu une découverte pour les deux.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que contre Djoko, on n'attendait pas forcément à ce qu'il gagne. Contre Casper Ruud, qui a déjà fait des grosses perfs en grand chelem, on s'attendait peut-être pas à ce qu'il gagne. Et il arrive contre Mensik, qui lui sort de nulle part aussi. Et là, on se dit, bah, c'est bon, c'est peut-être là le bon match pour Fonseca, ça va rouler, etc. Peut-être pour lui. Enfin, on attendait à ce qu'il en montre davantage, je pense, et ce qu'il n'a pas fait du tout, selon moi. Voilà, c'était vraiment pas son meilleur match du tournoi. De loin.
Je suis d'accord. Mais je trouve que c'est quand même un joueur qui a des irrégularités de jeu, même dans des matchs. Contre Djoko, au début, il démarre, il a un peu de mal, et puis après, il devient vraiment exceptionnel. Et là, contre Mensik, juste, il a jamais réussi à trouver ce gros niveau-là.
Bah, il a souvent ses trous d'air, ça c'est sûr. Ouais. Quoi qu'il arrive un peu dans tous ses matchs. Et il a quand même réussi à être suffisamment régulier pour remporter 3-7 sur chacun de ses matchs.
Sauf contre Mensik.
Sauf contre Mensik, ouais.
Et donc, parlons un instant quand même donc de Yacoub Mensik, transition parfaite. C'est celui qui a réalisé le plus beau parcours quand même de cette jeunesse là, un peu fougueuse, mais c'est celui dont on parle sûrement le moins un petit peu quand même, Yacoub Mensik, le Tchèque. Donc c'est ça y est, son parcours s'est arrêté. Et là, il y a quelques minutes cet après-midi, donc sa demi face à Zverev, il a tout de même réussi à lui prendre un set à l'allemand. Et donc on l'a dit, hein, il a notamment concassé Fonseca en quart de finale. Il n'y a pas eu de débat finalement, 3-7 assez net. Donc cette victoire de Yacoub Mensik, globalement la jeunesse a répondu présent dans ce tournoi avec de belles performances. Donc signé de cette génération 2005-2006, des joueurs qu'on a appris à mieux connaître. Oui, mon cher.
Ouais, non, j'allais dire Mensik quand même coup de chapeau parce qu'on se rappelle de comment il a commencé son tournoi.
Ah bah.
On peut quand même en dire un petit mot là-dessus. Il a failli partir aux urgences avant même la fin de son match. Il était au bord des crampes, du malaise. Il a vomi sur le terrain. Voilà, il n'arrivait pas à enchaîner les matchs. On se demande comment il l'a gagné d'ailleurs, ce fameux match.
Et après,
qui était
contre Navonet.
Contre Navonet.
Il s'est fait survivre quand même.
Ouais.
Voilà, on le voyait pas gagner ce match, parce que Navonet était quand même physiquement en bonne forme.
Oui, puis Navonet, c'est normal, je veux dire, un match de 4h30 pour Navonet, c'est un lundi matin au boulot. Quoi.
Et là, il était au bout d'un super tie-break, 7 partout, 8 partout, ouais. Mensik avait déjà plus à marcher, il arrive à arracher ce super tie-break 13-11, voilà, enfin, au bout de, je sais plus, 5h, 5h30.
Ouais, un petit peu moins de 5h, je crois.
Moins de 5h, voilà, mais quand tu te dis, il va pas aller loin dans le tournoi, ça commence comme ça, on n'est pas bien, et puis finalement, bah, il a réussi à se refaire une santé, et puis il a réussi à gagner en 3-7, à regagner encore en 3-7, et puis voilà, là il a eu une petite pause de 3 jours.
Deux jours
entre son quart et sa demi, et ça lui a permis d'être un peu mieux physiquement. Bon, il perd aujourd'hui, mais
avec des honneurs.
Il a réussi à se refaire une petite santé quand même, malgré tout ça. Moi j'ai trouvé ça assez dingue.
Ouais, c'est bluffant. Franchement, bluffant. Gros tournoi de Yacoub Mensik. Et Simon, je crois savoir que ces petits genoux. Oui, c'est à toi que je parle, Simon.
Oui, dis-moi.
Mais j'écoute, je vais te le dire tout de suite. Je crois savoir que ces genoux t'ont inspiré, n'est-ce pas?
3. 4
Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous savez, en ce moment, tout le monde regarde Roland Garros, tout le monde en parle. Le nombre d'abonnés explose sur tous les réseaux de pleine balle, et ça grâce à toi, Enzo. Bravo.
Si seulement.
C'est la période, c'est normal, et c'est beau entendre ma tata me parler des matchs de Matteo Arnaldi, 104e mondial. J'y aurais pas vraiment cru il y a quelques mois quand ce dernier s'inscrivait les bras ballants au Challenger de Cagliari après deux défaites en qualification de Barcelone et Madrid. Mais c'est ça la magie de Roland Garros, et c'est beau. Tout le monde en parle, tout le monde a un avis, et hier, il m'est arrivé quelque chose de cocasse. Hier, j'étais donc à la boulangerie pour m'acheter mon petit déjeuner quotidien, à savoir un jambon beurre et deux autres jambon beurre. Et après cet achat de jambon beurre, j'allais partir quand le client de derrière moi a commencé à parler du tournoi parisien en déclarant, je cite, « Très beau tournoi du jeune Brésilien Fonseca, je le suis depuis ses débuts ». Et ça ne m'étonne pas de le voir aussi haut. Oh putain, je vais me le faire. Ça sentait qu'il y connaissait rien, j'étais sûr que c'était un gars qui regardait maximum 2 tournois dans l'année. Il va pas faire le mariole longtemps devant la boulangère. Aussitôt, je me retourne, je le regarde droit dans les yeux en lui disant « Ah ouais, alors comme ça, monsieur aime Fonseca. Est-ce que monsieur est au courant que Fonseca, justement, il est né à Rio le 21 août 2006? Est-ce qu'il sait que son père, c'est un PDG hyper riche, cofondateur d'un fonds spéculatif indépendant au Brésil? Je suppose que monsieur, avec son petit chapeau de paille, ses mocassins à gland et sa veste de connard, c'est exactement ce que veut dire fonds spéculatif d'investissement indépendant. Mais est-ce que tu sais, toi, que ton petit poulain brésilien, il a gagné son premier match ATP en 2024 à l'Open de Rio contre Arthur Fils? Est-ce que tu savais qu'en 2023, il était numéro 1 junior après avoir remporté l'US Open junior justement. Et mieux, est-ce que tu sais qui était en tribune lorsqu'en 2022 il a joué son premier match à Roland-Garros, toujours en junior? Je te donne en mille mon gars, c'était Gustavo Kuerten qui est revenu après cette année. Cette discussion s'est clos lorsque la boulangère m'a offert une salade de phalange directement dans la glotte sans prendre le temps d'emballer les pains qu'elle m'envoyait. Après cette échauffourée, me voilà banni de la boulangerie des 1001 pains. Boulangerie d'ailleurs artisanale et bio, où a eu lieu le tournage du film d'action Les pains qui finissent dans la gueule 2. Pour en revenir à mon anecdote sur le chemin pour rentrer dans mon logis, je repense à tous ces jeunes qui se sont montrés lors de ce Roland-Garros 2026 en me demandant: mais est-ce que ces jeunes joueurs, je les suivais avant qu'ils n'explosent? Jakub Mensik, 20 ans, je le suivais, non, en fait, je le suivais pas lorsque, à ses 17 ans, il gagnait le tournoi Challenger de Prague en 2023. Notre Français, Arthur Fils, je le suivais pas lorsqu'il gagnait Roland-Garros Junior en 2021, en double, accompagné de l'indécrottable Giovanni Mpetshipe-Ricard. Et au final, Raphaël Rodard, je ne le connais que depuis cette année. À part l'année dernière, je savais pas qui était Lerner Tien, 20 ans, et déjà en quart à l'Open d'Australie. Quant à Mira André, Eva, on ne la présente plus, mais j'ai l'impression de l'avoir connue comme tout le monde lorsqu'elle a fait sa demi à 17 ans. En fait, je me suis aperçu qu'à part Fonseca, moi aussi je connaissais les jeunes joueurs et les joueuses du circuit seulement depuis qu'ils sont connus. J'ai mal agi lorsque j'ai défoncé ce pauvre monsieur qui se l'a pété devant la boulangère. Il fallait que j'aille m'excuser. Je cours le retrouver. Lorsque j'arrive derrière lui, je lui dis: bro, what the fuck, j'ai dit n'importe quoi, excuse-moi bro. Et là, il me répond: c'est pas grave, t'as raison d'établir des petites précisions au sujet de Fonseca. Le tennis masculin, ça se voit que tu le connais. Attends, il veut quoi là, le tennis masculin? Tu crois que je le connais pas, le tennis féminin aussi? Tu crois que je suis pas au courant qu'il y a une Française qui a gagné l'Open d'Australie Junior et qui va tout défoncer dans quelques années? Tu crois que... Voilà, bon bref, j'étais reparti, c'était plus fort que moi, j'ai insulté ce monsieur. Mais je crois que, en fait, le problème, c'est que j'ai du mal avec les chapeaux moches.
Non, j'ai vérifié avant, j'ai pas bougé mon pied.
Et il s'amuse avec les jingles en plus, putain, qu'est-ce qu'il est fort.
Ah, il est incroyable.
Franchement, il est très très fort.
Il est indécrottable.
Exactement,
Simon,
exactement.
Hein, non, j'ai paniqué avec les jingles, j'ai pris le premier.
À tout moment, c'était la fin de l'émission.
J'avais très envie d'entendre Michel Bouzna, ça tombe bien.
Ah, mais ça fait toujours plaisir.
Mais évidemment, quoi.
Franchement, ça fait toujours plaisir.
Ah, Simon, ouais. Ça fait du bien que tu reviennes quand même dans l'émission.
Ah, ouais, franchement. Ah.
Ça me fait du bien de vous voir.
L'émission est vraiment moins bien quand t'es pas là.
Et quand je suis derrière une vitre?
Bah, allez, tu es là, même un petit peu loin, mais tu es là quand même. Donc
c'est vrai, c'est vrai.
Et puis niveau olfactif.
C'est mieux, un peu.
Je ne finirai pas cette phrase. C'est lui qui l'a terminé.
J'ai enlevé mon pull, vous m'avez dit, allez, en technique, toi, mon gars.
C'est vrai que
l'émission va être longue, voilà.
C'est vrai que la régie est bien isolée ici, Dieu merci.
Exactement.
Effectivement. En tout cas, merci Simon pour cette belle aparté, cette belle chronique sur ces petites jeunes, sur ces petits jeunes et ces petites jeunes aussi. Tu veux parler de Mira André, ça marche aussi.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que je rebalance une virgule ou quelque chose comme
écoute,
ça?
Bah écoute, si tu as l'occasion de le faire, vas-y.
Plaisir,
allez, vas-y, fais-toi plaisir. Magnifique, vraiment, cette émission va être absolument géniale.
C'est automatique quoi, suffit d'appuyer.
Bah oui, voilà, c'est ça, faut juste cliquer dessus, puis ça part, c'est génial. Bref. Bon, on l'a dit tout à l'heure, Sinner, l'atout majeur du camp italien, est tombé au deuxième tour. Avec Musetti forfait et Darderi éliminé au troisième tour, ça ressemblait à une année de vache maigre pour l'Italie. Mais que nenni ! Que nenni ! Eh oui, car trois Italiens en quart de finale d'un grand chelem, c'est inédit. Et en plus, ça nous offre deux parcours rocambolesque. Alors autant Coboli tête de série 10, on pouvait s'y attendre quand même. Mais alors Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi, Simon tu en as parlé il y a quelques instants.
Ah si.
Là, comme tu dis si bien, là on est sur de la surprise qui surprend. Les deux joueurs étaient en dehors du top 100 en amont du tournoi, sur des dynamiques franchement difficiles hein, ces derniers mois. Les deux Matteo relevaient un peu la tête juste avant Roland. Arnaldi avait gagné le Challenger de
Cagliari contre Hubert Hurkacz. Bah,
Il a révisé.
Il a bossé.
Et Berrettini lui avait engrangé quelques victoires sur terre battue, mais c'était franchement pas non plus, voilà, pas non plus la mer à boire. Et alors de là, aller voir en quart de finale. On a même eu le droit donc à ce duel de Matteo en quart. Bémol tout de même, Berrettini a dû abandonner sur blessure. Ça franchement c'est
personne
chiant.
Personne ne s'y attendait.
Ah franchement c'est. Ça fait chier que ça se finisse comme
C'est triste. Ouais,
c'est vraiment dommage, mais quel parcours incroyable de nos deux Matteo. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, c'est vrai. Moi, je suis surtout bluffé par Arnaldi quand même.
Arnaldi, ouais. C'est
plus que Berrettini, parce que Berrettini, on sait de quoi il a été capable.
Ouais.
Et on l'a quand même vu très bien jouer ces derniers mois, notamment en Coupe Davis, où il avait été assez incroyable. Donc, on sait qu'il peut encore bien jouer. Après, c'est combien de temps? Est-ce qu'il va être régulier? Est-ce que son corps va le laisser tranquille, etc. Donc là, oui, on s'attendait peut-être pas à ce que physiquement, il tienne le coup à ce point-là pour rallier les quarts. Mais Arnaldi, ouais, pour moi, c'est vraiment la vraie surprise du chef, quoi.
Ouais, Arnaldi,
avec un niveau de jeu
Incroyable.
Ouais, bah, un niveau de jeu, c'est pas. Son classement n'est pas du tout représentatif, là, hein, vraiment pas.
Arnaldi, pour replacer un petit peu, qui avait connu vraiment une période assez faste, quand même, qui était arrivé au port du top 30, hein, je crois, il me semble, en 2024, ouais. Un truc comme ça. Et il était à un moment, il avait une réputation de tueur de français en tournoi. Il y avait une série où il prenait toujours des français au premier tour, des grands chelems et des gros tournois, et il les battait tous. Et après, c'est vrai qu'il y a eu cette chute vraiment au classement assez incroyable. Et là, il était 104e au début du tournoi. Et le voilà, donc là je crois qu'il est 34e au provisoire.
Ouais, il est revenu.
Ah bah oui, là, il est en train de remonter fort. Et puis je pense qu'il n'a jamais joué aussi bien de sa vie. Sauf qu'il aurait pu très bien perdre contre Collignon par exemple au troisième tour. Il y a eu des matchs hyper serrés. Après il y a eu Tiafoe,
il l'aurait dû perdre techniquement. Il était pas il était mené 4-1 je crois dans le dernier.
2-7-1 et 4 jeux à 1 pour Tiafoe en 4ème set. 4-40-30 même.
Oui, mais après sa victoire n'est pas non plus imméritée quoi, la victoire.
Ah complètement.
Ah non, c'est pas ce que je dis, mais effectivement c'est assez impressionnant. Après Tiafoe, c'est vrai qu'il a souvent pas la réputation, mais il lâche ses matchs assez vite, je trouve.
C'est un choker, ça que tu veux dire.
Il a du mal à conclure, on va dire. Donc ouais, le remonter contre Tiafoe, je dis pas que c'est facile, mais bon, c'est attendu. Mais il faut.
C'est attendu.
Mais faut le faire. Et franchement chapeau, honnêtement. Ouais. Puis il a enchaîné des gros matchs, il arrive à tenir physiquement. Même si Berrettini, au final, il y avait un peu le même parcours, des gros matchs en 5-7, il a dû en enchaîner peut-être deux.
Oui.
Deux ou trois, je sais plus.
Pas tant que ça, non, Berrettini.
Il y a ce match contre Comesana au troisième tour. Que j'ai vu, que j'ai eu la chance de voir quand j'y étais sur le Simon Mathieu. Oui, franchement, match extraordinaire.
Ah, t'as été à Roland.
Pour le coup, j'ai eu la chance, je suis tombé cette journée-là. Tombé sur le Simon Mathieu, le match de Berrettini qui a duré 5h13. Juste avant, il y avait une certaine Maya Jfalinska aussi sur le court.
Tiens.
Non, match absolument incroyable et parcours aussi fabuleux de Berrettini. Ça faisait plaisir quand même de revoir aussi Berrettini. Comme tu l'as dit, Richard, on sait qu'il est capable d'eux. Mais c'est vrai que là, on se demandait s'il était encore capable justement. De le prouver quoi.
Bah, c'est l'effet Enquist hein. Voilà, on y est. Bah,
évidemment.
Quand la Suède rencontre l'Italie, c'est des étincelles.
J'ai les yeux qui brillent.
C'est une pizza au Gravelax de Sommet.
C'est
magnifique.
C'est absolument magnifique.
Il est beau le mot Gravelax.
C'est sympa. Hein.
C'est
bon en plus. C'est vraiment bon. Simon, un petit mot sur ces Italiens.
Berrettini, image de fou quand il veut continuer de jouer et que tout son clan lui fait non, arrête. Parce qu'ils doivent le connaître, le Berrettini, ils doivent savoir que.
J'ai une carte de
on en prend pour 6 mois là. Donc... Et non, il n'a pas voulu arrêter. Et Arnaldi, ses coups de défense, c'est magnifique. C'est juste beau. Mais qui aurait parié là-dessus? Peu de monde.
Ah certainement pas nous, ça c'est sûr.
Ah, ça c'est nous.
Non, mais c'est contre Tiafoe qu'il a fait des défenses.
Ouais.
Même pas héroïques, érotiques. Ah ouais, ça m'a fait de l'effet.
Ah c'est un Italien, c'est l'école Rocco Siffredi.
Évidemment.
Il y a eu des rattrapages de smash. Il y a eu un point, je sais pas, il va chercher 2-3 trucs exceptionnels quoi.
Et effectivement, Tiafoe le gars qui, le choker comme on dit, qui les fout dans le filet à la fin ces smash.
Ah ça.
Casser une raquette, je pense quand même. Il y a dû avoir une envie.
Il l'a cassé.
Tu confirmes, il l'a cassé.
Ouais, à 6-5 quand il perd, il arrive à débreaker. Et au final, après, il perd son service juste après. Donc, il va s'asseoir.
C'est con.
Il n'a pas aimé. Et le banc n'a pas aimé ce qui va se passer après.
Mais franchement, match fou. Fabuleux. Ce Arnaldi Tiafoe, franchement, si vous voulez aller revoir un match de Roland Garros, celui-là, on vous le conseille parce que c'est probablement dans le top 3 des meilleurs matchs de cette quinzaine. Et aussi, je tiendrai à préciser, Simon, je sais que tu as regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Le réservoir italien ne s'est pas décliné qu'en simple puisqu'ils ont aussi gagné le double mixte.
Évidemment, Errani Vavassori, comment ne pas en parler.
Franchement.
Et heureusement que tu l'as écrit.
Bah oui.
Et que je peux le lire.
Heureusement que
j'ai le conducteur sous les yeux, évidemment.
Non, mais voilà, tu es. Mais je sais que tu as suivi, de toute façon. T'étais sur le court, t'as regardé le match.
Je suis coach de Vavassori.
Bah oui, c'est ça, t'es coach. Tu es Vavassori. Tu es Vavassori. Non, mais voilà, aussi, ils ont gagné, voilà, ils ont même conservé leur titre.
Oui,
Sarah Errani et Andrea Vavassori, qui avaient gagné l'an dernier, et ils gagnent encore cette année. Tout va bien pour le tennis italien, finalement.
Finalement.
Voilà, les têtes de série sont pas là, mais c'est pas grave.
Sans Yannick, finalement, ça
tout va bien. Mais sans Moussetti, sans Darderi aussi.
Sans Fonini, excusez-moi.
Sans Fonini.
Ah ouais, faut le dire. Ah bah faut le dire.
Quand même.
La relève est assurée, ça fait plaisir.
Sans Seppi.
Ouais. Sans Seppi, sans Filippo Volandri.
Oh là là.
Ah bah ouais, voilà, on est là.
Là on est là. Franchement, on est parti là pour un petit.
Non, moi je m'arrête là.
Tu t'arrêtes là ?
Ouais.
Moi aussi, j'en ai pas d'autres.
Il y en a plus beaucoup. Hein.
J'en ai plus d'autres en stock. En tout cas, voilà, le réservoir italien va bien. Merci pour eux. Et quoi qu'il arrive, ce sera une belle édition de ce Roland Garros, puisqu'il y en aura au moins en finale, du coup, puisque la deuxième demi qui aura lieu ce soir reposera. Coboli à Arnaldi pour la fin du tableau masculin. That's good stuff. All out of tech from Federer. Pleine balle, ça continue avec notre gros débrief de Roland Garros. Un cru 2026, mi-figue, mi-raisin pour le camp français. Alors, nos espoirs avaient pris un sérieux coup sur la caboche quelques heures après la dernière émission avec l'annonce du forfait d'Arthur Fils.
Dommage, hein, parce qu'au vu du tournoi, oh là là, il aurait pu faire un truc de fou.
Ah, il y avait de la place. Hein.
Il y avait la place, hein. Et en plus, du coup, celui qui a récupéré sa place dans le tableau, c'est un certain Jesper de Jong, le key loser, qui est arrivé en huitième de finale.
Effectivement.
Donc, il y avait quand même quelque chose à faire. Après son abandon donc, à Rome, le Français était, selon ses propres dires, insuffisamment remis, insuffisamment voilà, en forme, capable de jouer à 100% sur un terrain de tennis, comme il l'a dit. Donc, forfait. D'ailleurs, il était prévu à Bois-le-Duc.
Oui.
Sur gazon, il était prévu là à Bois-le-Duc et ce matin il a déclaré forfait.
Tiens,
ça ne vous rappelle pas quelque chose?
Ça sent pas bon.
Donc pour l'instant son retour est repoussé à Halle. Pour l'instant.
Halle
en Allemagne.
Halle, Deutschland.
Tout à fait. Pas d'Arthur Fils. Donc une seule Française en l'occurrence en deuxième semaine, c'est Diane Paris, qui a quand même réalisé un beau parcours en éliminant entre autres la tête de série 6 de ce tableau féminin, Amanda Anisimova. Avant de tomber face à la référence polonaise sur terre battue, désolé Iga, hein, c'est pas toi qu'on parle, mais non, Diane Paris c'est cool quand même. Franchement, un beau parcours, une deuxième semaine, c'est sympa.
Bah ouais, puis on l'attendait pas forcément, hein, donc, donc chapeau quoi, chapeau Diane. On aurait bien aimé qu'elle aille un petit peu plus loin. Sur le papier, tu t'es dit, bon, il y a la place contre la 115e joueuse mondiale. Bon, en fait, non.
Tout le monde s'est dit ça. Contre...
C'est clair.
Oui,
contre
Svalinska.
Svalinska était impressionnante. Notamment contre Paris. Ouais.
Notamment contre Diane Paris, qu'on a vu d'ailleurs avec un revers à deux mains, de temps en temps.
Sur ses retours.
Sur ses retours de service. Alors, qui était déjà quelque chose qu'elle expérimentait ces dernières semaines, ces derniers mois, mais là, on l'a revu utiliser ce.
Mais je pense qu'elle a copié sur Simon, s'il le fait de temps en temps, lui. Notamment sur surface rapide.
Ouais, sur le plastique de Cormel Le Royal notamment, n'est-ce pas, n'est-ce pas Simon?
Moi non, j'ai arrêté le revers tout court. C'est décalage quoi qu'il.
Tu joues que des coups droits. Que des coups droits.
Ou des smash.
Ou des smash. Bah vu que t'es grand, c'est pratique. Pour te lober, c'est compliqué. Mais non, en tout cas voilà, Diane Paris, belle performance. 55e mondiale d'ailleurs lundi au prochain classement. Quasiment son meilleur classement. Elle était 47 ou 48, je crois son meilleur.
Et donc, elle est pas ses premières françaises du coup ou pas?
Bien sûr.
Bah, largement.
Elle est où, Jacquemot?
80.
Oh là là.
J'ai regardé au 80 au classement live.
Loïse Boisson.
Transition parfaite. Loïse Boisson, pas de miracle.
Non.
Pas de miracle. Elle était donc opposée à Kalinskaya, tête de série 22, je crois.
Oui.
Malheureusement, une défaite assez prévisible, une défaite sèche 2-2, je crois, de mémoire.
C'est ça,
hein. 2-3, je sais plus, un truc comme ça. Mais bon, voilà, pas de miracle. Oui. On s'y attendait en vrai, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais.
Pour avoir vu le match en vrai dans les gradins du
Oh là là, mais arrêtez un peu tous les deux là.
Avec Richie, on bossait, nous on pouvait
mais
pas
c'est
y
clair.
Aller.
Non, mais attends. Nous, on va sur le terrain pour avoir les meilleures réactions. Voilà, c'est du pur travail. Et non, elle a fait un match horrible en fait. Non, objectivement, elle est arrivée sur le terrain pleine de pression, elle n'arrivait pas à jouer, il n'y a rien qui passait. Puis Kalinskaya, ultra solide. Donc c'est dommage, mais c'était évident qu'elle n'aurait pas pu faire une.
Mais c'était attendu.
Super attendu. Super parcours.
C'est vrai que ça m'a fait un peu marrer, moi, tous les grands titres des médias, voilà, le retour de la prodige, on savait très bien que ce serait plus que compliqué. Donc aucune surprise.
Enfin, là, ce qui était étonnant, c'est que son revers était vraiment mauvais, mais il y avait vraiment rien de son. Elle avait que des chops, elle faisait que des chops, donc Kalinskaya évidemment, elle bombardait le revers, il y avait que ça à faire, et il y avait un revers à deux mains, deux revers, et après ça sort. Il n'y avait rien.
Après, ça n'a jamais été son point fort.
Ouais, mais c'est vraiment étrange d'avoir un trou de cette ampleur, en fait. C'est...
Manque de rythme.
Ouais. Elle manque de match, elle revient de blessure, donc forcément, voilà, y a beaucoup d'explications qui font que. Mais c'est dommage.
Même avant sa grosse blessure, elle n'avait pas beaucoup joué non plus.
Oui.
Carrément.
Donc c'est un manque d'expérience qui est plutôt global.
Clairement. Mais il va falloir qu'elle remonte la pente, là. Ça ne va pas être facile, je pense.
Donc que du coup ça nous l'a fait redescendre aux alentours de la 150e place.
Ou ce qui est peut-être mieux quelque part en vérité.
Ce qui est peut-être pas plus mal en soi, au moins elle va pouvoir peut-être reprendre. Là elle va bénéficier de classement protégé pendant. Au moins je pense qu'à la fin de la saison elle va être quasiment tranquille avec ça. C'est 9 par saison je crois, ou 9 classements protégés.
Elle est obligée de l'utiliser ou elle
Non, elle n'est pas obligée, mais elle peut. Et quoi...
Est-ce que ce serait mieux, par exemple, si elle arrive à Wimbledon en classement protégé,
est-ce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le... Mais au pire, elle a cette opportunité-là.
Oui, bien sûr.
Mais après, oui, ça peut être aussi l'opportunité, justement, de retourner, jouer des matchs, déjà, de base, se retester, voir si elle est capable, en fait, de jouer jusqu'à la fin de la saison, quoi.
Carrément.
Juste ça, déjà. Ce sera déjà, je pense, une première grande victoire pour elle. Et si elle peut peut-être essayer de regrappiller le top 100 d'ici la fin de la saison, ce sera, je pense, quelque chose de vraiment positif pour Loïs Boisson. Pour le reste, on a quand même eu... Moïse Kouamé, va falloir qu'on en parle un petit peu.
Oui.
Moïse Kouamé, bon, désolé, Richie, il a dégommé Marin Cilic au premier tour.
Ouais, mais bon, venant de lui, ça m'a pas non plus fait trop mal.
Ça atténue un peu la douleur, on est d'accord.
Oui, et puis Marine, j'attends de le voir à Wimbledon.
Sur une surface
j'en fais un des favoris, finaliste de Wimbledon, Marine.
C'est vrai, c'est vrai. Ah, Marine, oui. Marine ou Marine
Non, Marine, Marine C.
Marine un peu plus grande.
Marine le croate.
Oui, oui. Tu vois. Marine Cilic.
Non, mais j'y crois, moi, Marine sur herbe, là. Ça va faire mal, ça.
On verra. Hein.
Croyez-en, mon expérience.
Crois le premier tour, tu vas voir.
Ouais, puis,
Richie, on est plus en 2014.
Ah, non, mais attends, Cilic, c'est quoi, 2019 Wimbledon,
tête,
je sais plus. Ouais, 2019, je crois. Je crois que c'est le dernier Wimbledon de Roger.
Okay.
Qui gagne, donc ça va être 2019.
Ouais, c'est effectivement le dernier Roland Garros.
2018.
Il fait la finale.
Ça commence à faire.
Voilà. Enfin bon, bref, j'attends de voir Marin Cilic. J'attends de voir aussi Berrettini à Wimbledon aussi. Je suis.
S'il peut jouer, oui. S'il peut jouer,
j'y crois. J'y crois. Laissez-moi tranquille, j'y crois.
Non, mais en vrai, oui, ça, oui, faut y croire, parce qu'en vrai, ça peut être. Pour le coup, il a vraiment affiché un niveau de jeu bluffant. Enfin, vraiment, il m'a bluffé Berrettini.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on sait qu'il peut faire des ravages sur gazon, sur herbe, comme tu dis si bien. Donc Marin Cilic a survécu donc sur gazon pour notre Richard. Et donc tout ça pour dire que Moïse Kouamé nous a régalé jusqu'au troisième tour, donc en battant Cilic, en battant après Valero, dans un match absolument dingue de 5 heures, là c'était sur le Langlen, ça je crois.
Ouais,
un match absolument fabuleux. Incroyable. Il revient d'un break de retard dans le cinquième set. Il gagne au super tie break sur un service volé, mais de patron, de daron, alors qu'il a 17 ans. Mais
non, c'est pas grave.
Fou,
le mental du gars.
Le mental.
Ouais, ouais.
De se sortir de situations complètement folles. Et surtout d'aller chercher aussi ces situations-là, tu vois.
C'est ça qui est fou.
Il va monter à la volée, il va attaquer, il a pas peur, quoi. 17 ans. Avec une célébration aussi.
Oui.
Ça va plaire à la jeunesse.
Ah, jeunesse, tu regardes qui là? Tu regardes Richard en disant jeunesse?
Oui, je sais pas, c'est moi qui regarde. Oui.
Il y a eu un instant de doute là.
De flottement.
Non, mais c'est vrai que tu avais loué, je me rappelle, il y a quelques temps, sa maturité.
Oui.
Déjà pour son âge. Et c'est vrai que là, on l'a vu.
Ah, clairement, puis, mais à tout niveau, sur tous les plans. Il s'exprime bien, il réfléchit bien. Enfin, tu sens, voilà, c'est un mec qui a la tête sur les épaules.
Mm-hmm.
Bon, qui est quand même coaché par un dieu du tennis français, évidemment, Richard Gasquet. Mais non, c'est vrai que moi, j'ai été bluffé. Après, on parle de son mental à 17 ans. Il y a peut-être un peu aussi d'insouciance.
Insouciance, ouais, je suis d'accord.
Il y a encore l'insouciance de l'ado. Oui. Voilà, mais il a pris du plaisir, c'est sûr. Mais faut quand même être prêt, faut quand même surmonter une grosse pression. Et il l'a fait, donc vraiment chapeau. Il nous a montré à quel point il pouvait bien jouer. Maintenant, il va falloir qu'il puisse répéter ça rapidement et régulièrement. Mais voilà, on sait de quoi il est capable. Et puis, il a encore tellement de marge de progression.
Oh,
c'est ça qui est fou.
Il va falloir lui laisser un peu le temps quand même.
Bien sûr.
Parce que là, on va le suivre, on va se dire jusqu'où il peut aller dans les petits tournois.
Parce que là, du coup, il va repartir en challenger. Il est programmé. Et c'est bien, voilà, il continue.
Il a raison, ouais.
C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Faut pas brûler les étapes, tranquille. T'as que 17 ans, c'est extrêmement jeune. Et donc, là, il est aux alentours de la 215e place, je crois, au classement PIF. Son parcours a pris fin contre Tabilo. Voilà. Histoire de le signaler quand même.
Oh, il avait bien commencé.
C'était
un bon match.
Un beau match
en 4-7.
Ça aurait pu
au cinquième. Hein,
ça aurait pu au cinquième. Il a sauvé 5 balles de match, je crois.
Ouais.
Avant de.
Félicitations. Les félicitations du conseil de classe pour Moïse Kouamé.
Admis,
voilà, avec la mention, très bien. Et du coup, pour le reste du contingent français, bon, bah, ça a été assez compliqué. Hein. Troisième tour quand même pour Quentin Alice.
Oui,
signaler,
ouais.
Qui a pris un 7 à Zverev, un des rares à l'avoir fait sur cette quinzaine. Sinon, bah, beaucoup de défaites au premier tour. Dernier match de Gaël Monfils, Sniff. Richard, je pense que tu l'as regardé avec un petit peu de. Avec un sourire en coin.
ouais, non, mais je sais même pas quoi dire. Là. Non, c'était une belle fête. Voilà.
C'est une belle fête, voilà.
C'est une belle fête, mais bon, moi j'aurais aimé qu'il propose du vrai tennis pour finir. Voilà, j'ai la même chose depuis des mois, mais.
Oui, parce qu'il finit sur une bulle en plus, il prend 6-0.
Mais oui, c'est pas trop étonnant, c'est pas la première fois qu'il perd un match comme ça. Mais voilà, comment tu veux bien finir, sachant qu'il joue pas, il joue plus, en fait, quand t'as pas de rythme dans les pattes, dans le bras, c'est impossible de proposer du bon tennis. Alors, il voulait finir à Roland, il a eu sa wildcard à Roland, mais voilà, et je. remets une pièce dans la machine, je recompare avec ce que nous a fait Stan, qui joue aussi son dernier Roland quand même, qui a fait un super match sur le cours Simone Mathieu.
Ouais,
voilà, qui s'est battu jusqu'au bout et qui nous a proposé du beau tennis et voilà, j'ai dit toutes mes félicitations à Stan et puis bah mon fils, bah voilà, bonne retraite quoi. Mais ouais, non, je suis déçu.
On le retrouvera l'année prochaine dans la team France Télé.
Peut-être. Non mais voilà, mais quand tu penses à d'autres, quand tu penses, je sais pas, moi, tu penses au dernier match de Gilles Simon à Roland, oui. Tu penses au dernier match de Tsonga, oui. À Roland. Enfin voilà, les mecs ils se sont battus. Lui, tu savais dès le départ que ça donnerait rien.
Sachant qu'il remonte de 7 à 0, tu
oui.
De 7 partout, tu dis ah ça y est. Et après il lâche.
Ouais, j'y croyais même pas tellement.
Moi j'ai jamais cru. Honnêtement,
j'avoue, ouais, j'y croyais même pas tellement.
Ouais, le dernier match de Richard Gasquet contre Sinner à Roland.
Ouais, voilà. Bah, ouais, bah là, c'est là, tu connaissais le résultat, mais bon, il finit sur une night session.
Oui.
Et puis on a eu droit
quand même. Il gagne un match quand même.
Il passe un premier tour, il perd au second. Et puis voilà, tu sentais qu'il était content de faire ce match. Il nous avait proposé quand même quelques bons points contre Sinner. Non, j'avais pris plus de plaisir à regarder ce match-là que celui de mon fils.
C'était un peu particulier, mais bon, voilà. Dernier match donc de Gaël, mon fils, à Roland Garros. Pensez à Mickaël, à Terence Atman. Hein qui est désormais éleveur de chèvres dans le Larzac. Parce que bon, on la replace quand même, c'est méchant, mais en vrai, c'est rigolo. Pour ceux qui auraient raté, hein, vraiment, c'était au tout début de la quinzaine, à 5 ans, ça remontait.
Lui aussi, il a raté des choses, visiblement.
Ah bah, donc il joue Kokkinakis au premier tour, Thanasi Kokkinakis, l'Australien, qui revient pour la 157ème fois.
Il est combien là, 700ème
800ème
Ouais, je crois 800 voilà. Et quelques, un truc comme ça. Kokkinakis qui a joué 3 matchs en un an, un truc comme ça.
Parce que, mais pour le coup, lui, il joue, tu vois.
Mais lui, il joue par
mon fils, voilà, mais tu sens que le gars, il s'est entraîné, quoi. Il est pas arrivé là,
c'est clair qu'il avait un niveau, point. Franchement, assez incroyable. Et Terence Atman, bon bah voilà, match compliqué, on s'y attendait. Dans le 5ème set, il y a 5 partout. Il a le service alors qu'il mène 5-2, je crois en plus. Il a le break, etc. Il se fait remonter, on la sent pas. On sent le truc pourri qui commence à arriver. Et 5ème set, voilà, 5 partout, 0-0. Le Hearth match. Là, c'est.
Mais un beau Hearth match.
Un beau Hearth match.
Ah, il a raté la balle. Écoutez, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il a raté la balle.
Il y a du soleil, un petit coup de vent, et voilà. Hein.
Qui a dû se sentir vraiment seul, quand même, sur le coup. Waouh, ça a été assez.
Sachant qu'il en rate un autre, 2 points après.
Bah, sur voilà, il y a 15-40, du coup, 2 balles de break. Il en sauve une première, je crois. Et sur la deuxième, il remonte au filet. Évidemment, Kokkinakis relobe, parce que bah, il a bien vu ce qui s'est passé 3 secondes avant. Et Badouf.
Ouais.
Non, du coup, celle-là va être dure pour Terence Atman, à qui on pense, évidemment, de là où il nous écoute.
C'est devenu une référence, d'ailleurs, en plus, hein.
Ah
les
bon
commentateurs de Roland, je sais plus, c'était le match Ojeal Yassim contre le
dernier. Là,
il a perdu contre Koboli.
Contre Koboli, ouais.
Premier point.
D'accord.
Gros échange et
il
tout.
Nous fait une Atman.
Et Félix fait une Atman. Il loupe son smash.
C'est dur.
Et là, les commentateurs, oh là là, il a fait une Terence Atman. Ils se foutent de sa gueule, mais.
Ah, c'est dur. Quand tu finis par
violent.
Te.
Quand tu deviens un mème, c'est
ouais, un mème de Laurent Luyat, c'est compliqué.
Ouais.
Bon, voilà, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur ce Roland Garros, made in France, avec notre contingent français qui nous a donné de belles.
Ouais, après, il y a quand même eu le double.
Il y a eu le double.
Ah, là, on peut laisser parler Simon.
On laisse parler Simon.
Évidemment.
Mais mon micro marche plus, là, je suis perdu.
Ah, on t'entend pourtant.
Non, super quinzaine de Quentin Alice.
Ah.
Et Pierre Hugerbert,
oui,
let's go.
Et en double mixte.
Ah bah oui, double mixte évidemment. Les légendes.
Putain, la paire Roger Vasselin Sigmund.
Hervé Sigmund. Oh bah voilà, 85 ans eux deux.
Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai.
Ils nous ont fait rêver quoi. Le vrai tennis comme on l'aime.
Franchement, c'est fou.
Fou.
Et Sigmund qui fait quand même un grand chelem, hein. Pas en trophée mais. Elle joue avec Roger Vasselin en double mixte et en double dame avec
Vera Zvonareva.
Avec Zvonareva.
SM où est le vrai tennis quoi.
Franchement.
SM vers qui se tournait.
Voilà. Le duo de paires, mais franchement, c'est magnifique quoi.
Ouais, mais c'est
absolument extraordinaire.
C'est beau.
Donc voilà, on a eu des belles émotions aussi en double, effectivement.
Complètement.
Et si j'en profite avant de rendre la main à Simon pour nous en une belle virgule dont il a le secret.
Tu me dis.
Juste dans 10 secondes, j'arrive.
Ah, il est chaud là.
On a une paire en finale de double junior. Une paire française.
Ah.
Daniel Jade, Mathis Demanck.
Ah, trop bien.
Qui ont gagné sur la table.
Ah, bah ça, c'est nos potes.
Voilà, c'est nos copains. Donc,
c'est nos copains.
C'est nos copains. Donc voilà, ils sont finale du double junior.
On en parle de Daniel Jade un peu plus tard ou pas du tout?
Pas, j'ai pas prévu.
Donc on peut en parler là.
Donc parlons-en maintenant.
Daniel Jade, donc oui, on avait dit. Enfin, on l'a pas dit. Si, on l'avait dit.
On l'avait dit. Vite fait,
qui a passé un tour contre Dan Evans au calife, et puis voilà, qui est parti à Karnak se faire un petit tournoi pour pas perdre trop la main.
Un 25 000, tranquille.
Il le gagne. Pénardos. Et là, il se dit bon, allez, je reviens à Roland. Je connais la route, je connais le chemin. Là, j'ai un petit, quand même, grand chelem junior à éventuellement aller chercher. Bon, premier tour, ça passe contre un espagnol dont j'ai oublié le nom. Bon, voilà.
Oh, je l'ai pas non plus.
Deuxième tour, un américain. Ouais. Kennedy. Avec un nom comme ça, de toute façon.
Jack
Kennedy, tête de série numéro 4. Et ouais, il s'est fait un peu dégommer, mais il s'est dit fatigué, il s'est dit émoussé par. Après, il l'a fait en bagnole. Hein. Paris-Carnac, Carnac-Paris.
Carnac-Paris.
Ça épuise.
Un bal morbillon, c'est loin. Hein.
Ah, okay, oui,
ouh, là, là, là.
Okay, oui. Mais voilà, un peu déçu, mais finale du double. Donc voilà, ça compense c'est largement cool. pour Dany. Ça,
voilà,
c'est cool.
Pour Dany, qui nous aura fait un joli Roland-Garros. Franchement.
Bah ouais, puis c'est pareil, c'est la génération Kwame, là, les deux.
Ouais,
on va,
2009.
On ça. Va vite en réentendre parler.
Voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur le contingent français. Je pense qu'on a été complet et on va continuer maintenant sur le tableau féminin. Oui, donc le tableau féminin à présent, eh ben, on peut penser là aussi que les gros noms ont boycotté le tournoi, hein, finalement.
Eh oui.
Hein, décidément, Richard, tu avais vu juste de A à Z. 3 des 10 premières têtes de série en quart de finale, ça fait pas beaucoup. Et là aussi, ce qui a marqué les esprits, c'est la déconfiture totale des stars du circuit. Il n'y a que Andreeva, globalement, hein, qui a tenu son rang, puisqu'elle est en finale. On va y venir dans la section pronos dans quelques minutes. La tenante du titre, tout d'abord. Coco Gauff éliminée au troisième tour par Potapova. Rybakina aussi, numéro 2 mondial, vainqueur du premier grand chelem de la saison en Australie, sorti au deuxième tour par Starodoubtseva. oui, j'ai réussi à le dire d'un coup, je sais pas comment.
Tu l'as bossé celui-là.
Starodoubtseva, joli nom. Ensuite, on va se focaliser un instant sur les deux prochaines joueuses là, dont on va parler. Commençons d'abord par Iga Swiatek. Désolé Marine, mais il faut en parler. Quadruple vainqueur, porte d'Auteuil, ta raison de vivre a été hachée menu par Marta Kostiuk. certes, Marta Kostiuk en très grande forme cette saison sur Ocre, mais tout de même, une défaite 7-5, 6-1. À aucun moment, on a senti Swiatek capable de remporter ce match. À aucun moment, malgré un 7-5 dans le premier set. Tu me corriges, hein, mais
non,
sincèrement.
Je suis tout à fait d'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé, Marine, dans ce match-là?
Quel est ton ressenti?
Je sais pas. Honnêtement, en plus, je l'ai pas vu parce que j'étais en championnat par équipe.
Oh là, en interclub.
J'ai essayé de jouer très vite mon match. Je me suis dit ok on va jouer vite et tout. J'ai même pas eu le temps de voir le match.
T'as gagné ou t'as perdu?
J'ai gagné.
J'ai gagné. T'as pas fait de Swiatek?
Au moins une qui gagne, c'est ce que j'allais dire.
On a fini le double, il y avait 5-1 pour Kostiuk. J'ai fait waouh, ok, bon. Et non, je pense qu'elle a fait comme l'année dernière. Elle a succombé totalement à la pression et je pense que mentalement il y a un gros problème. Je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas comment elle peut le résoudre, mais là ça va plus, elle supporte plus la pression. Elle a plus rien gagné depuis Roland 2024, je crois.
Ah non, Wimbledon l'année dernière.
Elle prend Wimbledon, c'est vrai.
C'est son dernier trophée.
Mais ouais, non, il y a un gros souci. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est encore la reine de la terre battue? Je ne sais pas.
Ah bah là, non, là clairement pas.
Oui, bon, alors arrêtez d'être aussi calme. On y va doucement, d'accord.
Quand même.
Pas du tout.
Mais
dans son propre pays, il y a quelqu'un qui joue mieux. C'est compliqué.
Mais c'est sa copine, elles se connaissent depuis 10 ans.
Oui,
attends, c'est incroyable.
Fait.
Bah, elles étaient en CM2 ensemble. Donc,
mais oui, elles ont joué ensemble.
À Cracovie. Bah oui.
Non, c'est très dommage pour Iga. Et pour être tout à fait honnête, je ne la voyais pas gagner contre Kostiuk.
D'accord.
À contre-cœur, j'étais quasiment sûre qu'elle allait perdre contre Kostiuk, au vu de sa forme surtout. Enfin, oui. Marta, je parle. Et non, faut bosser mentalement. Là, c'est compliqué. Là.
Ouais, moi j'ai vu le match et aucun moment on a pu penser qu'elle allait gagner. C'était pas possible. Elle arrosait dans tous les sens et voilà, tu sentais qu'elle était pas du tout relâchée. Enfin, les coups partaient pas du tout. Enfin, il y avait vraiment un gros souci. Quoi. C'est d'un point de vue mécanique, t'avais une bougie qui marchait plus, quoi. Donc le moteur tournait pas rond et ça se sentait dès le départ et voilà, elle forçait et elle faisait des fautes en veux-tu en voilà. Et Kostiuk n'a pas eu à forcer pour gagner ce match du tout.
Oui, elle l'a fait toute seule en fait. Elle était
tendue,
c'est
elle qui l'a perdu. Hein, ouais, c'est Swiatek qui perd le match. Hein. Ça c'est sûr. Donc oui, je sais pas quoi lui dire pour qu'elle puisse retrouver un peu de confiance. Ça c'est ce qui lui manque là.
Là c'est ce qui lui manque avec des gros points à défendre dans quelques semaines donc à Wimbledon. Simon, je sais pas ce que si t'as pu regarder un petit peu ce match.
Ouais, j'envoie la virgule, y a pas de souci.
Non, pas de virgule tout de suite, du calme jeune homme. Non, je sais pas si tu as pu un peu regarder le parcours.
J'ai pas vu le match contre Kostiuk.
Mais c'est vrai que c'était assez étonnant de l'avoir sans solution quoi. C'est vraiment ça, sans solution sur une surface qu'elle a tellement dominée pourtant par le passé.
Ah mais face à une adversaire qui a une telle confiance en soi là sur le moment, Kostiuk était en on fire. Peut-être qu'effectivement elle est rentrée sur le terrain en se disant bon, Il va falloir que je mette beaucoup plus et c'est trop tendu.
Compliqué.
Ça l'a pas fait.
Bon, en tout cas, pas de Ziatek donc pour le titre cette année. Et avec tout ce remue-ménage, on pensait la route dégagée pour Arina Sabalenka, pour qu'elle s'adjuge enfin son premier Roland-Garros. Alors oui, mais non, car la numéro 1 mondiale a chuté de façon assez inexplicable, elle aussi, en quart de finale. Opposée à la gauchère Diana Schneider, 25e mondiale, Sabalenka était elle aussi à 4 petits points du match, avant de se vautrer dans les grandes largeurs, là, désolé.
Boycott,
là vraiment on peut se demander, parce que c'est autant Sinner, il y a une explication un peu physique, etc., autant là, elle menait 6-3, 5-3, et là, le navire Sabalenka a sombré dans les bourrasques de vent qui balayaient le cours Philippe Châtrier.
Bah, elle a pu remis un jeu.
Plus aucun jeu marqué. Elle encaisse donc un 6-0 cinglant dans le troisième set. Et j'ai un petit quiz pour vous. Savez-vous qui était la dernière joueuse à avoir infligé une bulle à Sabalenka, donc avant ce match, sur terre battue?
Sur terre battue,
je précise, parce que du coup...
Est-ce que Simon a la réponse ou pas?
Non, je l'ai masqué pour Simon, justement, exprès. Alors, je vous le donne, puisque Simon, tu l'as aussi. C'est à Roland-Garros 2022.
Roland-Garros 2022.
Alors, Simon, normalement, tu n'as pas la joueuse.
J'ai pas la joueuse. Oui, il y a marqué réponse égale et j'ai
rien. Parce que j'ai mis en police blanche.
Eh oui.
Et moi, t'as mis du blanco sur l'ordi.
Oui, j'ai mis. Ah, c'est ça, oui, pardon. Non, ok. Richard, ça va te faire plaisir.
C'est une joueuse qu'on connaît.
Oh bah, Richard.
Ah bon, bah.
Ça, c'est une joueuse qui t'a fait vibrer, ça.
Ah bah. Attends, Roland-Garros 2022. Une joueuse qui m'a fait vibrer.
Elle a gagné le match quand même, Sabalenka ou pas?
J'ai pas la ref.
D'accord.
Mais je pense que oui quand même.
Bah, tant que ça peut être, il m'a fait vibrer en 2022.
Azarenka.
Non.
On parle pas de Zvonareva, c'est pas possible.
Non, non.
Laura Sigmund.
Non. C'est pas génie. C'est pas génie.
Non, c'est pas génie.
C'est pas génie.
Mais je sais même pas si. Vous allez voir le nom, j'adore. Je vous donne ou pas?
Bah, allez, vas-y. Là, comme ça, c'est pas.
Camila Giorgi.
Oh, Camila Giorgi. Camila,
Camila Giorgi.
Bah, qui doit revenir bientôt là.
Oui, apparemment, oui.
Elle a annoncé son retour, mais j'étais fou du
elle
joie,
a retrouvé
moi.
Ses papiers, du coup, c'était une
histoire. Elle a retrouvé ses papiers, sa raquette, son cordage.
Pour ceux qui ont suivi l'histoire de Camila Giorgi, un truc aussi, pour en faire une série Netflix.
Un exil, on aurait dit Napoléon, quoi.
À Sainte-Hélène directement.
Exactement.
En tout cas, voilà, Camila Giorgi.
Bah, ça m'étonne pas, parce que bon, c'était quand même un gros niveau sur Terre. Camilla.
Ah bah, Camila Giorgi était capable aussi de coups d'éclat, comme ça, un petit peu.
Princesse Camilla, quoi.
Ouais, Camila Giorgi. Bon, voilà, cette histoire de la placer.
Ah, merci, ça me fait plaisir.
Je savais que ça allait être plaisir. Voilà, ça allait t'emplir de joie, là. On revient à Sabalenka, à cette déroute en bonne et due forme. Inexplicable, vraiment. Je sais pas si, pareil, est-ce que vous avez pu regarder ce match?
Oui.
Et qu'est-ce que vous. Oui, tu as pu voir ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, je me suis endormie. Je me suis réveillée, il y avait 6-3, 4-2 Sabalenka. Je vais regarder la fin.
Histoire 2.
Et puis là, moi, qu'est-ce qui se passe? Alors après, je me dis, fin du deuxième set, je vais prendre une douche, je vais avoir le temps, je vais revenir, il y aura 2-2, il n'y aura pas 5-0.
Il y avait la session nocturne qui a commencé.
Tu regardes jamais le tennis en
mais,
fait.
Mais je n'ai jamais le.
T'es vraiment notre consultante phare, quoi.
Là, j'étais en train de jouer. Je sors, il y a 5-0 Schneider.
Là, je faisais ma lessive.
Qu'est-ce qui se passe?
Là, j'étais en pétanque.
Non, mais je me dis, en 20 minutes, il y aura 2-2, quoi. Et non, 5-0 Schneider. Et je sais plus c'est quoi le taux de faute directe de Sabalenka, mais il est énormissime.
Troisième set, je crois, il y a 9 coups gagnants.
C'est quoi un taux de faute direct?
Bah, c'est genre le nombre de fautes directes, quoi.
Vu qu'un nombre le est un pourcentage.
Ouais, exactement.
Bah oui.
Je crois qu'il y a 9 coups gagnants pour 21 ou 22 fautes directes.
Je crois qu'elle a 42% de fautes directes.
Ah oui.
Voilà, c'est
ça. Je sais pas, c'est pour la Marine.
Ah, mais si, c'était bien.
C'est pas si mauvais, ouais.
Ok, merci, voilà. On est bon, quoi.
Non, vraiment complètement fou cette absence, là, ce blackout on-off.
J'ai trouvé quand même un peu dû aussi à Schneider.
Oui, c'est vrai
qui remettait d'un coup tout et qui a un peu lâché ses coups, qui s'est dit bon bah quitte à perdre autant la jouer à fond.
Parce oui aussi.
Il y a eu beaucoup de plus de coups gagnants de la part de Schneider.
Ouais.
Ça a été plus percutant, plus puissant.
Aussi, c'est vrai effectivement.
Il y a un moment, Sabalenka a été perdue, genre elle prenait des points, elle regardait son clan, elle était oh les gars, il se passe quoi? Je me fais défoncer la gueule, j'ai pas l'habitude. Mais non, c'était étonnant de voir Sabalenka vraiment perdue sur un cours, ça arrive rarement. Énervé, oui, mais là perdu.
Ah, puis là, t'es pas de crier.
Bon, ouais. Ça, c'est à peu près bien.
Non, mais vraiment,
ça,
c'est crier ça, c'est ce que je voulais dire. De désespoir, en fait.
Ah, d'accord.
Et sa conférence de presse, elle est un peu marrante. Oh. Dis, alors, comment ça va? Je vais arrêter le tennis. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'elle a dit
et après, deux jours après, ça va. Là, elle a sorti un post Insta. Elle a dit non, ah, bon, je rigole. Je rigole, je vais continuer.
C'est bon. C'est vrai que tout le monde l'avait cru. Okay. Donc, heureusement qu'elle nous dit elle
le boycott est énorme, en fait.
C'est clair.
Heureusement qu'elle le dément.
Dans le conducteur, il a mis Sabalenka, arrête le tennis.
Bah oui, c'était ma virgule après. Du coup, je suis.
Ah, j'envoie la virgule.
Bah non, t'inquiète. Mais du coup, non. Parce que du coup, elle part pas en retraite, donc je peux pas. Là, je suis confus. Richard, un petit peu ton ressenti sur cette déroute de Sabalenka.
Oui, c'est ce que je disais. C'est que. Voilà, alors, ça a été un vrai on-off aussi pour elle. Après, il y a plein de raisons, je pense. Il y a effectivement Schneider qui s'est arraché. Et puis elle, peut-être, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est un Roland-Garros, tu vois tout le monde qui tombe. Les bonnes joueuses tombent une à une. Peut-être qu'elle s'est un peu vue trop vite aussi. C'est vrai, hein, c'est valable pour Zverev aussi. Hein. C'est le favori numéro 1. Peut-être qu'elle s'est dit un peu la même chose. J'ai pas le droit de perdre. Et puis voilà, ça nous arrive, nous, en 4ème série. Alors peut-être que ça lui est tombé dessus aussi, je sais pas. Voilà, après, je l'ai déjà assez souvent répété, mais il y a tellement de surprises dans le tennis féminin, notamment. Bon, là, masculin aussi pour ce Roland Garros. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans le tennis féminin, d'une remontada, d'un truc.
La surprise de taille.
C'est ce qui fait le charme aussi de ce
tout
tennis.
Tout à fait. L'incertitude du sport, finalement. Normalement, en tout cas, cette déroute là aussi qu'on n'avait vraiment pas vu venir non plus pour Aryna Sabalenka. Et tout ça, ça a profité à quelques autres joueuses.
Hot!
Toujours aussi vif sur les virages.
Il est magnifique.
Il est vraiment magnifique.
Je peux vous la remettre.
Oh bah c'est quoi, fais-toi plaisir. Allez.
Hot!
Oh là 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 là.
On va faire une émission que avec des virgules, en fait. C'est tellement plus simple à préparer. Bref. Donc, du coup, je le disais, les têtes d'affiche du circuit ont tiré la langue dans ce tournoi. Une aubaine, donc, pour d'autres joueuses, pour pointer le bout de leur nez. Kalinskaya et Sirstea de retour en quart de finale de Grand Chelem, quand même. 17 ans après son dernier pour la Roumaine, c'était en 2009.
Ça, c'est top.
Contre Stosur.
C'est
Samantha.
Samantha Stosur. Mais évidemment, le parcours qui restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire, c'est bien sûr celui de la Polonaise Maja Szwalińska. Son parcours donc est complètement rocambolesque. 114e mondiale au début du tournoi. Elle a tout d'abord gagné ses 3 tours de qualif en détruisant 2 Françaises au passage. Hein. C'est OK. Avant donc de rejoindre le grand tableau, elle n'avait plus passé un tour en grand chelem, donc dans un tableau principal, depuis Wimbledon 2022. Une éternité. Et donc, qu'importe, hein, quand Swiatek n'est pas là, Szwalińska prend le relais, forte de son jeu tout en variation. Elle a passé donc les tours 1 à 1. Zeng, Mertens, Sakkari, Diane Parry, on l'a dit tout à l'heure, Kalinskaya et Schneider hier. En demi-finale, un seul set perdu sur ses 9 matchs, qualif compris. Et donc une finale de Grand Chelem pour la Polonaise qui sera au pire 21e au classement WTA.
C'est fou ça.
Lundi, on est en train de revivre une épopée à la Raducanu 2021.
Ouais, ou à la Vacherot plus récemment.
C'est fou.
C'est dingue.
Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Szwalińska?
C'est complètement dingue et elle est en train de... Oui, puis elle fait complètement dérailler tous ses adversaires en fait. Mais c'est assez fou quand même qu'on ne l'ait pas vue avant en fin de compte.
C'est dingue, c'est ça. C'est...
Alors c'est vrai qu'elle a un jeu qui se prête bien à la terre battue.
Oui,
ça c'est sûr.
Ça, c'est clair.
Même si, comme tu l'as dit, elle a quand même déjà fait des résultats sur gazon. Bon, ce qui est assez,
elle est sortie de qualif, ouais.
C'est assez dingue. Non, mais elle n'est pas non plus mal à l'aise sur gazon.
Ah non.
Donc non, mais elle a un jeu et c'est vrai que voilà, on va en parler de son jeu qui est à l'opposé du jeu des standards aujourd'hui, on va dire, sur le circuit féminin,
l'antithèse.
Où ça tape à gauche, à droite, à hauteur de hanche, etc. Et elle fait tout pour les emmerder, et ça marche très très bien, et c'est même assez plaisant à voir, je dirais. On se régale de les voir dérailler toutes ces choses.
C'est vrai que
c'est magnifique.
Ouais, j'ai une petite question là-dessus, après on va en parler.
Oh là là.
Sachant qu'en plus, moi, ce qui est beau, c'est son parcours personnel. Elle se cache pas, elle dit, voilà, elle sort d'une dépression de 3 ans, elle voulait arrêter le tennis parce qu'elle arrivait plus à rien, et là elle se dit, bon bah allez, je reviens. Elle revient et fait finale de Roland Garros. En vrai, c'est pas mal.
Ça va. Il y a pire.
Donc non, c'est plutôt cool. Effectivement, comme vous avez dit, son jeu est vraiment. C'est pas un jeu ultra étonnant. Voilà, elle fait des amortis, elle casse le rythme et tout. Mais c'est fou de voir toutes les grosses joueuses se casser les dents sur ce genre de variation, en fait. C'est long, on se demande, mais il n'y a pas un souci dans le tennis pro.
Justement.
Un peu trop de régularité de jeu. C'est beau, un petit changement, un petit courant d'air.
Un petit courant d'air féminin,
c'est pas mal.
Courant d'air venu de la
Courant d'air frais.
Courant d'air frais.
Ils sont frais, les courants d'air polonais en plus. Hein.
Oui. Ah bah les polonaises, elles sont fortes.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, le vent d'Est.
Ah, le vent d'Est, toujours le fameux vent d'Est. Simon, qu'est-ce que ça te fait
qu'est-ce que ça
t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Et quand on voit que tout le monde se casse les dents et la variation de jeu qu'elle a, je pense que la petite Mira Andreeva, friable mentalement, qui peut.
Ah, je sais pas.
Tu t'avances sur les pronos.
Je m'avance un peu sur les pronos, mais je pense que pour Mira, ça peut être très compliqué.
Sachant que pendant le match Szwalińska-Schneider, la coach, j'ai oublié son nom, Conchita
Martinez,
voilà, merci,
elle était
dans les gradins,
ah bah oui,
elle ziotait tout,
Conchita,
mais tout. Donc, quand même. Peut-être remarquer des petits défauts dans le jeu de la polonaise, on verra.
Ouais, ouais, on n'en est pas au prono, mais.
Mais voilà.
Mais j'avais un, j'ai déjà le mien.
Vous avez un avant-goût.
Il y a des bas.
Ouais, donc on va rebondir un petit peu là-dessus. Son jeu, c'est vraiment voilà, ce qui marque aussi les esprits, donc on l'a dit. Donc c'est monté à contre-temps, c'est balles un peu en cloche, c'est balles très bombées, etc.
Bah, des espèces de ronds, on a c'est l'impression ça. Qu'elle fait des ronds. Et que... Mais en fin de compte, mine de rien, elle prend la balle vachement tôt. Ouais.
Oui, capable. Hein, de...
voilà, elle prend les balles montantes. Ah, bah. Et puis elle fait des ronds, mais des ronds. Voilà, bien lifté, bien profond, quoi. Ouais. Elle joue très très long et elle emmerde tout le monde. Elle fait des amortis qui sont pas toujours très bien sentis, enfin pas très bien touchés.
Ah ouais, mais quand ils sont bien touchés, ouais.
Quand elles sont touchées, elles sont touchées. Mais contre même quand elles sont pas très bien touchées, elle arrive quand même souvent à gagner le point et elle a un sens de l'anticipation, elle
oui,
a un œil.
Sa lecture du jeu, elle est fascinante. Ouais.
C'est fou. Les joueuses en face, elles ont des pénalties à tirer, elle part tout le temps du bon côté quasiment. Elle arrive à les cerner très vite. Non, chapeau, hein, cette joueuse intelligente.
Très, très
ça me rappelle les belles heures de Martina Hingis quoi.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça.
Il y a un peu de Radvanska aussi
École polonaise.
École polonaise.
Et voilà,
exact,
et voilà la Pologne fait des miracles. Voilà.
Bah ça dépend pour qui. Mais bon si j'abuse, elle avait quand même pris 4 avant donc ça va. Elle peut en laisser un peu de côté. Non, j'avais oui du coup une petite question un petit peu là-dessus. Richard t'as commencé à le dire et Marine aussi d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plutôt enchanté par cette performance, par son parcours, par ses victoires, ou plutôt vous dites un peu comme Marine, est-ce qu'il n'y a pas un problème justement finalement dans cette dominance du jeu sur le tennis, sur le circuit féminin, où ça cogne dans tous les sens, etc. On peut se dire d'un côté aussi, il y a absolument aucune adaptation quoi.
Oui,
dès qu'il faut s'adapter, le tennis c'est quand même un sport d'adaptation un peu à la base quand même. Et là on voit en fin de compte que dès que ces joueuses-là doivent s'adapter, elles n'ont aucune solution. Aucune. On voit Kalinskaya qui arrose pendant une heure et demie. Sakkari a très très bien joué pendant un set et un tout petit peu plus d'un set au troisième tour. Et après c'est pareil. Elle se met à arroser dans tous les sens. Dès que ça se dérègle, en fait, c'est fini. Comment vous le jaugez cela ? Est-ce que vous êtes plus positif ou plutôt le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein ? Comment vous le voyez ?
Ouais, un peu entre les deux. Ça fait du bien. Déjà, moi, je trouve que ça fait du bien de voir ça, un jeu clair. Différent. Mais c'est un peu valable pour les mecs aussi. Hein. Là, on parle du tennis féminin, mais bon, chez les mecs, ça commence à taper de chaque côté, à gauche, à droite, du Sinner, de l'Alcaraz, du Mensik. Voilà, effectivement, ça joue tendu, etc. Et c'est vrai que là, ça fait du bien. Maintenant, petit bémol, parce qu'effectivement, là, elle prend tout le monde de court. Moi, j'attends de voir quand même sur le long terme, voilà. Est-ce qu'elle va vraiment réussir à s'installer dans le top 20, dans le top 30 et à les inquiéter sur le long terme, ces filles-là, je sais pas. À un moment donné, elles vont savoir à quoi s'attendre et je pense qu'elles vont adapter deux, trois petites choses parce qu'après, d'un point de vue quand même de puissance, il y a un vrai déficit quand même. Donc, j'ai peur qu'à un moment donné, ça coince. Mais voilà, en tout cas, ça fait du bien. C'est un vrai vent de fraîcheur, comme on l'a dit. Et si elle peut aller jusqu'au bout, ça serait merveilleux.
Ça serait absolument merveilleux, Marine.
Mais c'est ce que j'allais dire justement au niveau puissance. Là, elle a joué des joueuses qui sont puissantes, mais c'est pas les plus puissantes du circuit. C'est dommage que Sabalenka ait perdu parce que j'aurais bien aimé voir le duel, voir comment elle aurait pu un peu jouer ses balles. Parce que Sabalenka, elle envoie des frappes, mais bon, c'est atomique. Bah... Et voir un peu la solidité qu'elle peut présenter face à ce genre de frappe et voir finalement si ce jeu-là peut contre-attaquer n'importe quel jeu. Donc, à voir sur le long terme. Je rejoins Richard. Petite nouveauté, ça fait du bien.
En tout cas, à voir sur le long terme, mais pour ce qui est de surprendre ses adversaires, elle le fait au meilleur des moments.
Ah bah là, personne ne s'y attendait. Hein.
Ça tombe très très bien, effectivement.
Si ça peut te faire remporter un grand chelem comme Roland Garros,
c'est
toujours
mal.
Plaisir.
À point nommé, effectivement. En tout cas, voilà, un parcours absolument incroyable de Maja Szwajnicka, peu importe le résultat de la finale donc, qui se jouera demain contre Mira Andreeva. Donc, on va la pronostiquer, je vais y arriver, dans quelques instants. Mais juste avant, donc, on l'a dit un petit peu à travers tous ces petits débats, ce tournoi a été absolument dingue, a été totalement ébouriffant. Oserais-je même dire, tout à fait ébouriffant. Tous ces rebondissements, ils remplissent les livres, le stat et autres anecdotes. Marine, tu nous livres ton flashback de ce Roland-Garros 2026.
Au-delà de ta concentration, devient facile.
Oui, globalement, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, hein, mais je vais apporter une petite précision chiffrée, on va dire. Beaucoup de nouvelles choses dans ce Roland-Garros. D'abord, première victoire en Grand Chelem pour deux des quatre joueurs en finale. Ça fait depuis 1977 qu'aucun vainqueur de Grand Chelem n'est dans le carré final. C'est quand même très très beau.
Oui, c'est vrai.
Mais, donc on l'a dit, c'est permis par les départs prématurés des grosses têtes de série qu'on voyait gagner. Sinner, notamment, qui avait du coup un boulevard sans Carlos tombé au deuxième tour. Et puis Arena qui décide de lâcher en quart. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle a lâché. Et donc ça nous donne, enfin ça me donne différentes stats. C'est la première fois depuis 2000 que le numéro 1 mondial ATP est sorti dès les premiers tours. Donc la dernière fois, c'était Agassi, éliminé au deuxième tour par Carol Kuchera en 2000, donc. Petite nouveauté depuis 26 ans qui a ouvert du coup toute la partie de tableau du haut, laissant les grossettes de série se disputer dans la partie basse. C'est vrai qu'il y avait tout le monde chez Zverev et personne en haut. Comme on l'a dit, Roland exceptionnellement surprenant au vu de l'hécatombe des têtes de série. Autant chez les filles, on est habitué à avoir des grosses surprises, autant chez les mecs, les tableaux sont toujours assez tracés et prévisibles. Cette année, ils voulaient nous choquer, je crois. Ils ont réussi. Donc dès les quarts de finale, les membres du top 10 étaient timides et pas ceux auxquels on pensait. Ogier Aliassim, top 4, Zverev, top 2, c'est tout chez les mecs. Et chez les filles, Sabalenka, bon ça on s'y attendait, Zvito et Andreeva. Ok, soit. Donc on est sur 3 membres du top 10 sur 8 places ouvertes, très inhabituel. Si on reprend les stats des 10 dernières années, j'ai fait mes petites recherches. Dans le tableau ATP, on retrouve entre 5 et 7 joueurs du top 10 sur les 8 places en quart. Et WTA, c'est un peu plus ouvert. Entre 4 et 6 membres du top 10 en quart. Donc pour les hommes, on est sur une moyenne de 76% des places occupées par des membres du top 10
ça,
en quart de finale.
C'est un taux, ça.
Ça, c'est un taux, ça. Un taux à pourcentage très recherché. Et chez les femmes, on est plus sur du 58%. Oh, ça reste assez élevé quand même. Et alors là, grosse recherche. Dernière fois qu'il n'y avait que 3 top 10 chez les femmes, c'était en 2016. C'était il y a 10 ans quand même, mais bon, voilà. Et chez les hommes, ça remonte à beaucoup plus loin. En 1997, voilà, il n'y avait qu'un seul membre du top 10 en quart de finale, l'année du sacre de Gustavo Kuerten.
Guga.
On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, sympa. Et puis alors, Chwalinska, on en a parlé. J'avais mis « si » ainsi hypothétique dans ma chronique, vu que je fais bien mes devoirs, je l'ai faite avant leur match. Donc maintenant, je vais affirmer ce que je dis. Comme elle est arrivée en finale, c'est la première fois dans toute l'histoire de Roland-Garros qu'une joueuse issue des qualifications rallie la finale. Bon, big up Raducanu, c'est fait 2, du coup.
Du coup, pour une histoire en grand chelem.
Et donc... j'allais relire la même ligne.
Donc, il est tard.
Ouais,
là.
Non, oui, c'est là, dur. Attention, là. Par contre, première fois qu'une joueuse issue des qualifications a atteint le demi, c'était en 2020 à Roland-Garros, c'était Nadia Podoroska. On a compris, massacre des têtes de série. Bon, on va laisser les têtes de série tranquilles. Il y a d'autres chiffres à retenir cette année à Roland. On a parlé des matchs en 5-7, ça nous a donné des matchs de fous furieux, du genre 5h58, tu avais dit 6h tout à l'heure Enzo, c'était 5h58, voilà.
Oui, oh, j'arrondis.
Je me permets de préciser.
Oh.
5h58, c'est environ le temps que je prends pour retourner en Lorraine en voiture, sans embouteillage, je précise.
Port d'Angleterre fluide.
Port d'Angleterre fluide, sinon on passe à 6h40.
Ah oui, au moins, oui.
Et bien là, c'était le temps qu'il a fallu à Juan Manuel Cherundolo pour battre Martin Landalucci au troisième tour avec un score final de fou furieux. 6-4-6-7-7-6-6-7-7-6, ça fait mal.
Ce n'est pas votre poste qui bug, hein, c'est bien.
Ça fait mal au temps. Et c'est d'ailleurs le troisième match le plus long jamais disputé dans le tournoi. Voilà, sympa. Et puis dernière stat chiffrée que je trouve folle, c'est la performance de Sorana Cirstea, 36 ans quand même, on précise, oui. Qui sur 3 matchs consécutifs a enchaîné 24 jeux remportés d'affilée. Voilà, donc elle était menée 3-1 dans le premier set contre Evalis. Elle remporte le match 6-3-6-0. Elle inflige une double bulle à Solana Sierra et elle remporte le premier jeu au tour suivant contre Wang, stoppant du coup la performance folle. 24 jeux d'affilée, franchement c'est pas mal.
Ça c'est pas mal.
Ça c'est pas mal. Ouais. 24 jeux consécutifs.
Ouais, carrément.
Aberrant.
C'est pas mal. Alors est-ce qu'on interrompt nos programmes tout de suite ou on annonce la nouvelle après la
breaking
chronique
news. Breaking news.
Qui est forfait,
breaking news.
Allez vas-y. Qui est
Simon, t'as une virgule breaking news.
Je la mets tout de suite.
Je sais pas où il va la trouver.
Sur la même.
Faute de pied.
Faute de pied.
Nous venons d'apprendre. Le forfait de Matteo Arnaldi pour la demi-finale de Roland Garros.
Il vient de nous passer un petit bigot
Il vient nous appeler, d'appeler Richard sur WhatsApp.
C'est pour ça
qu'il était en ligne.
Apparemment un virus.
Un virus, ouais. Un mauvais virus.
Un virus.
Il a chopé en un jour le virus.
Il dit que ça fait deux jours apparemment que là qu'il se lève et qu'il a la tête qui tourne.
Ouais, c'est les premières infos qu'on vient d'avoir.
C'est tout frais, c'est du très très frais.
C'est méga frais.
Là c'est méga frais. Pas comme Arnaldi du coup visiblement.
Le pauvre, c'est horrible.
Ni le poisson qu'il a mangé.
Ni le poisson qu'il a mangé, effectivement, pardon.
Non, en tout cas, c'est vrai qu'on est, voilà, on était à quelques minutes du coup d'envoi du match.
Coup d'envoi, hein. Voilà. C'est du tout, voilà. C'est de la breaking news made in Plainval.
Il n'avait pas osé commencer le match, du coup.
Non.
Mais sachant que pendant le match de Zverev, on le voyait aller s'échauffer et tout, il avait l'air. Il avait l'air d'être dans l'esprit d'aller au match, quoi.
Tu sais, des fois, avec un petit smecta, ça va mieux, et puis après, ça revient. Voilà, tu prends un Imodium, ça va mieux, et puis ça revient.
Après, ça revient.
Voilà, c'est. Des fois ça repart, puis ça revient.
C'est le problème, quoi. Non, mais c'est dommage, parce que
dommage.
Ça aurait été un très très beau match, je pense. Ça aurait été sympa. Après, je pense que c'est Koboli qui est content dans l'histoire.
Oh bah, là, oui.
Lui, il se refait une petite cerise là, avant dimanche.
Match, hop. Ouais. Un match en moins, c'est très bien.
Vous avez bien fait de le dire, parce que pour les pronos qui arrivent.
Bah oui, voilà, ça change.
On va s'adapter.
Ça change beaucoup
attention,
de choses.
Attention.
Mais avant, quand même, les pronos. On finit la chronique quand même,
vrai,
en bonne et due forme.
Ah mais c'est pas fini.
Mais non, c'est pas fini.
Non,
voilà, vraiment, c'est la vraie breaking news.
C'est vraiment la on interrompt nos programmes. Radio Phoenix interrompt ses programmes. Attendez, là, quand même, c'est de la breaking news qui breaking news, quoi. Donc on reprend du coup cette belle chronique. Tout à l'heure, tu nous as parlé de chiffres. Il y a aussi quelques petites histoires qui ne t'ont pas échappé durant ce Roland.
Il y a eu des petites polémiques. Polémiques avec des guillemets.
Des polémiquettes.
Le truc le plus fou, enfin fou. On va dire qui a été le plus vu par nos amis les internautes, c'était la remarque complètement déplacée de Valero, l'adversaire de Kwame, qui sûrement amer, très amer de sa défaite, s'en est pris à l'arbitre féminine de la rencontre, en déclarant qu'un match avec une telle tension et un tel public ne devrait pas être arbitré par une femme, car incapable de gérer la foule. Franchement, c'est pas une remarque très très cool. Et puis, pour notre plus grand plaisir, l'organisation du tournoi n'a absolument pas apprécié, évidemment, la remarque et a infligé une amende de 55 000 euros à Valero pour ses propos misogynes, constituant donc la moitié de son prize money.
Aïe.
C'est con. Ouais. Fallait mieux réfléchir avant de parler. L'autre petite polémique, avec des gros guillemets, bien sûr, c'est une spéciale dédicace à Richard.
Oui.
Parce que ça concerne Laura Sigmund, ta grande amie.
Oh Laura, mais laissez-la tranquille Laura.
Laura, elle a pas été très très cool avec notre grande amie Naomi Osaka qui, avec ses tenues extravagantes, éblouit la foule.
Personnellement, je suis pas au courant de cette anecdote.
Moi non plus, je
vous explique. L'Allemande n'aurait pas kiffé la tenue d'Osaka qui aurait. Elle aurait déclaré en conférence de presse en réponse à une question sur le sujet. Je cite : honnêtement, je m'en fiche. Je suis là pour jouer au tennis, pas pour un défilé de mode.
Je vais complètement dans le sens de Laura.
Osaka nous éblouit avec ses tenues toujours plus rocambolesques. Moi, je trouve ça incroyable.
Moi, j'ai une réponse de professionnel, voilà, déterminée, concentrée.
Pourquoi elle s'en fiche ? Pourquoi ça la fait râler ? Eh ben, c'est très simple. Elle aurait râlé sur le temps qu'a mis Osaka à démarrer le match après son changement de tenue. Moi, je trouve ça un peu culotté venant de sa part. Okay. On se souvient très bien du match contre Coco Gauff, où elle avait été très lente et elle avait complètement cassé le rythme de Coco. Avec des avertissements de temps en veux-tu en voilà, c'était à l'US Open 2023.
C'est Lewis.
Le public qui avait râlé et en conférence de presse, madame avait déclaré les larmes aux yeux. Non, mais je suis juste un petit peu lente, faut pas m'en vouloir. Osaka est lente
elle
à changer.
35 ans,
faut pas lui en vouloir. Non, mais voilà. Donc, Laura Sigmund, pas très très cool.
Non, mais elle est intouchable. Elle est au-dessus, quoi. Elle a un totem, là. Laissez-la tranquille.
Un totem.
On lui en veut pas. Et puis, dans les bonnes news, quand même, une night session féminine de programmée.
Oui.
Les rageux diront que c'est grâce à la non-attractivité du tableau masculin. Mais franchement, quand t'as un Sabalenka Osaka, ça peut qu'être un match de night, quoi.
Ça, pour le coup, oui, ça,
franchement,
c'est un joli match.
Incroyable.
Belle affiche.
On rappelle que les night sessions ont été instaurées en 2021 et que sur les 61 programmations depuis l'instauration, seulement 5 matchs étaient des matchs féminins. Bref. Et puis, alors, dernière stat que j'ai ajoutée, parce que ça me fait plaisir.
Oui, tu as ajouté une stat à la dernière minute.
J'ai ajouté, une stat.
À la 90e, qu'est-ce que c'est que ça ?
Je vais vous parler d'un joueur qui, sur 10 participations à Roland-Garros, a perdu, grâce à cette
Quelle
année,
malhonnêteté intellectuelle.
7 fois au premier tour. Je parle évidemment de notre ami russe Daniil Medvedev, qui a ajouté une défaite de plus à son compteur au premier tour. Donc, 7 sur 10 pour Daniil, défaite au premier tour, voilà.
C'est vraiment la vipère de la rédaction.
C'est clair, c'est vrai, c'est un peu
J'étais
la langue
tellement
de...
heureuse quand il a perdu au premier tour. Daniil sur terre battue, plus jamais. Voilà.
Oui,
plus jamais. Faut pas croire, sa résilience.
À mon avis, l'année prochaine, il revient.
Oui, je pense.
Premier tour.
Pour reperdre.
Premier tour, et il va augmenter ses stats, c'est beau. C'est beau, franchement, c'est beau.
Voilà, bon, en tout
pour
cas.
Les petits chiffres de Roland de cette année...
Eh bien, merci.
Fascinant.
Merci Marine pour ces infos complémentaires.
Ouais, c'est toujours sympa d'avoir des petites statistiques.
Exactement. Des petites infos donc, autour de ce tournoi foudingue qui a été Roland-Garros foudingue, 2026. Tournoi dont il reste encore quelques jours. Va-t-il nous réserver encore, justement, des surprises ? C'est l'heure des pronos. jingle entièrement joué à la trompette par Simon.
Oui, j'ai pas trouvé la virgule. Là, sur
le jingle
plus,
en live,
on a plus les droits. On a plus la bouche sans trompette. Absolument magnifique. Il est absolument multitâche.
J'ai pas génial. Trouvé la trompette non plus.
Mais tu l'as très bien fait quand même. Bravo. Les pronos donc pour cette fin de Roland Garros. Donc du coup, vu la breaking news qui nous a agité il y a quelques minutes, nous connaissons donc les affiches des deux finales. La finale féminine, donc tout d'abord, on l'a dit, Andreeva Shvalinska, et donc la finale masculine, Zverev Koboli. Voilà, ce sont donc les deux finales de ce week-end de Roland Garros. On va commencer avec la finale féminine.
Ça fait très premier tour quand même. Ces finales, elles sont tellement aléatoires.
Zverev Koboli, ça va.
Zverev Koboli, ça aurait pu être un
huitième.
Ouais,
ou un quart.
Huitième, troisième. Mais chez les filles, c'est vraiment.
Ah bah, Shvalinska, 114e. Ça, c'est sûr. Allez, finale féminine.
Pensez à ceux qui ont pris leur place pour la finale.
Je crois que du coup, à peu près tout le monde a le même pronostic, si j'ai bien compris.
Je sais pas.
Pour la finale féminine. Non.
Ou alors, j'ai pas bien suivi, mais.
Alors, bah, on y va. Je pensais, mais j'ai peut-être mal compris.
Peut-être.
Richard, vas-y, allons-y.
Allez, moi, je dis victoire. D'Andreeva.
Ah bah non, ah. Du coup, ok.
Ouais,
ok.
Moi, je reste chez la Pologne.
Allez, chez la Pologne,
directement.
Shvalinska en 2-7.
En 2, ouf, ok. Ouf.
Genre 7-5, 6-4.
Ah, ouais. L'histoire est trop belle, elle okay. continue.
Ouais.
Shvalinska aussi.
Moi, je suis très partagé, j'avoue. Je suis vraiment partagé.
Ah ouais.
J'arrive pas trop, je sais pas. Je suis partisan un peu de l'histoire est belle, etc. Donc j'ai envie de dire Shvalinska, mais je sais pas, Mira, je la sens en mission là.
Bah, même si elle fait finale, l'histoire sera belle.
L'histoire est absolument extraordinaire, mais
elle sera 21e,
du coup, arriver là, je pense qu'elle peut aller au bout. Tu vois.
Ouais, mais Mira, elle a la pression de la finale en Grand Chelem, la pression de la favorite, alors que Shvalinska, elle était incroyable. Elle débarque de nulle part, elle fait quart demi sans pression.
Mais t'as parlé de qui là en mission?
Andreeva,
ouais,
je la
sens aussi habitée de quelque chose.
Elle m'a bluffé contre Kostiuk pour le coup.
Ouais.
Alors Kostiuk a fait un match dégueulasse.
Très mauvais match.
Ouais. Dégueulasse Kostiuk. Nul son match. Nul.
Calmez-vous. Ouais, oh.
Non,
ça arrive.
Nul. Une demi en 55 minutes, c'est nul.
C'était aberrant.
C'était nul. Mais bon, en tout cas, oui, Andreeva en mission.
Moi, je pense qu'Andreeva ne déjouera pas.
Je sais pas. Je suis vraiment partagé.
Je pense que si.
Ouais.
Elle mettra du temps à déjouer, mais en 3-7. La polonaise va s'imposer.
Non, puis là tu sens qu'elle mûrit, elle apprend de ses erreurs, et là tu sens qu'elle a envie de bien faire par rapport à son dernier Roland Garros, et moi j'y crois. Et puis avec Conchita Martinez dans les tribunes, tu sens que, je sais pas, moi j'y crois.
Je suis vraiment 50-50 là, je sais vraiment, j'arrive pas à me décider.
Prononce-toi Enzo, c'est trop facile 50-50.
Allez Mira.
Allez Mira.
Voilà. Oh.
Mira Andreeva, allez, c'est bon, c'est pour elle, on y va. Donc deux Andreeva, deux Shvalinska, 50-50, on verra qui a bon dans 24 heures, un peu plus de 24 heures.
Oui, c'est...
Enfin, un peu moins de 24 heures, pardon. Sauf si la finale dure 9h52. c'est pas impossible non plus vu le tournoi de Barjo qu'on a. Finale masculine, du coup. Est-ce enfin la bonne pour Alexander Zverev?
Oui.
Ah.
Bah, si c'est pas celle-là.
Si c'est pas celle-là, ce sera.
Ça sera jamais.
Jamais.
Ça sera jamais.
Donc Zverev Koboli, hein, on le rappelle, donc la finale d'Italien, donc qui a bénéficié donc du forfait il y a quelques minutes de Matteo Arnaldi, qui ne va donc pas jouer sa demi. Donc Zverev Koboli, Zverev pour Richard, Zverev pour Marine.
Zverev, ouais.
Non.
Non Koboli?
Non, non, pas du tout, non pas Zverev pour moi.
Zverev. Zverev en 4.
Koboli?
Non, Koboli, ouais. Pour moi Koboli. Koboli, à la fois un choix réfléchi et puis vraiment un choix du cœur, quoi. Enfin, j'espère vraiment qu'il va gagner.
C'est quoi? Il a du sang de Fabio Fognini, c'est comment?
Non, mais je sais pas. Ça me fait plaisir qu'un Italien gagne et puis.
Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps.
Et puis j'ai envie.
De... bah vrai. Roland, si ça fait très très longtemps.
Non, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas pourquoi. Pour moi, Zverev, si. J'ai pas envie qu'il gagne ce grand chelem là, Zverev, quoi. Si jamais dans sa vie il gagne un grand chelem, autant qu'il le gagne bien.
Ah, voilà. Vrai, ouais, avec tout le monde.
J'ai pas envie qu'il fasse une Bartoli, quoi.
Ils sont.
Santé Marion.
Excusez-moi. Non, mais voilà, qu'il aille le chercher, qu'il nous fasse un beau grand chelem et voilà, qu'il nous fasse un truc. On se dit putain, ouais, il a quand même bien joué, Sacha. Là, non, s'il le gagne celui-là, ce sera mérité parce qu'il aurait été.
Sera normal.
Au bout du truc, ce sera normal.
C'est
voilà.
Un petit chelem, quoi.
Et mais voilà, non, il m'a pas bluffé depuis le début de l'année, Zverev. Il m'a pas. Voilà, il a mieux joué.
Sur ce tournoi-là, il est quand même. Impressionnant.
Mm. Bah, moi, il m'impressionne pas, en fait. Il est costaud, il joue
de
à son
sérieux.
Après, il a pas eu d'adversaire non plus.
Il a pas eu d'adversaire.
Ils l'ont mis vraiment dans des.
Oui, mais. Il y a eu Mensik aujourd'hui.
Mensik un petit peu tantôt, ouais.
Mais, voilà.
Et Rodar sur 1,5-7.
Ouais.
Et ouais, non, il a pas eu un joueur du top 20, si je dis pas de bêtises.
Effectivement.
Ouais.
Pour l'instant.
Effectivement.
Voilà. Et puis Koboli, ça joue pas mal quand même, Koboli.
Oui, ça joue bien.
Ouais.
Allez, moi, je reste sur Koboli.
Koboli.
Flavio.
Non, mais pour Marine.
Je pense que Koboli va succomber à la pression. Il va vouloir surjouer et ça va être nul comme finale.
Tu penses un 3-7?
Je pense premier set genre 6-2 Zverev. Après ça remonte, allez peut-être un 7-6 Koboli et après 2-3 Zverev.
Donc il gagne en 4-7 okay. Gagnant du coup.
4-7 Zverev.
6-2 7-6 6-2 6-3.
Non, il perd le deuxième. Tu vois.
Donc Zverev en 4.
Zverev en 4.
Okay.
Moi je crois en la légende de Zverev, éternel second.
Oh, okay. Jamais vainqueur. La legacy aussi.
Ouais, pour la légende quoi, de ce gars-là qui a jamais réussi et même quand.
Qui a jamais réussi.
Non, mais si, c'est énorme d'aller en finale.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
Qui au bout ne gagnera pas. Koboli en 5-7. Je pense qu'il servira. À un moment, Zverev servira pour le match. Et non.
Et ça ne marchera pas.
Non.
Et Koboli. Il va se passer quelque chose.
Il va se passer. La terre va.
Tremblement de terre battu.
Mais tremblement de terre battu. T'as quand même mis ton maillot de l'Allemagne là.
Oui, c'est vrai ça.
Oh mince. Peut-être que les dieux ne vont pas m'écouter.
Ah oui. Ok, bon, Koboli pour toi.
Koboli.
Et moi, évidemment, c'est contractuel. Je ne peux pas pronostiquer Zverev. Donc Koboli va gagner.
Okay. C'est contractuel.
C'est contractuel.
C'est avec nous que t'as signé un contrat, non?
Oui, bien sûr.
Ou c'est avec lui?
Avec lui.
Ah, d'accord. Okay, avec lui.
Non, on ne s'aime pas. C'est signé.
J'ai envie que Koboli gagne, mais c'est vrai que Zverev me paraît un peu au-dessus aussi. Mais je suis un peu partagé aussi avec ce que tu dis. Ouais, il n'y a pas eu d'adversaires qui l'ont vraiment
poussé. Il n'a pas encore été en kick.
Allez, pour l'histoire Koboli.
Koboli, je trouve ça trop aléatoire qu'il gagne un grand chelem là comme ça. Je trouve que c'est encore moins méritant, entre guillemets.
Bah non.
Zverev, il est quand même là depuis très longtemps. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu'il aille le chercher, quoi. Koboli, il aura d'autres occasions. Zverev.
Bah moi, je mets Koboli quand même.
Koboli aura d'autres. Ouais, je sais pas.
Il
n'aura pas 1000.
Zverev, il commence à être vieux.
Ah, il prend de l'âge. Bon, donc on a
2-2 chez les femmes.
2-2 chez les femmes et 3 Koboli, 1 Zverev.
Je suis seul en Allemagne.
Tu es seul chez Zverev.
C'est OK.
Bon, bah écoutez.
Je pensais pas défendre Zverev contre la Terre.
On aura nos réponses dans le week-end avec cette finale féminine, donc demain, et la finale masculine dimanche. Hot. De toutes petites infos quand même avant le quiz et avant de se quitter parce qu'il est un peu tard. Quand même un petit mot, on verra pas Carlos Alcaraz sur gazon.
Ouais,
l'Espagnol est en phase de reprise mais trop loin d'un niveau satisfaisant pour reprendre de façon honnête et défendre ses chances. Donc pas de gazon pour lui cette année. Donc il va perdre ses 500 points du Queens et ses 1300 points de Wimbledon. J'ai fait les calculs, si Zverev prend Roland et Wim, il reprend la deuxième place.
Ah.
Eh.
Bon, ok.
Challenge.
Bah, c'est un challenge. On verra s'il nous écoute.
Déjà, première étape, gagnons Roland. Première étape.
Il y a des étapes.
Il y a des si. Et autre info qui est venue agiter un peu la planète tennis, même malgré tous les regards braqués à Roland, Serena Williams va faire son retour.
Bah, oui, quand même.
Quand même.
On l'attendait celle-là.
C'était dans l'air.
Bah oui, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques mois dans cette émission. On reviendra pas. Eh bien, c'est officiel, l'américaine aux 39 titres du Grand Chelem, simple et double confondu, va refouler un court de tennis dans un tournoi homologué, j'entends évidemment, au Queens, qui débute là.
C'est quand même beau, la reine qui revient au Queens.
C'est beau.
C'est pas mal, quand même.
Mais elle le fait qu'en double, non?
En double.
Avec Mboko.
Avec Victoria Mboko, de 25 ans, sa cadette.
Pas mal.
Sa fille, finalement.
Ça pourrait être
sa petite fille, presque.
Presque. Voilà, une paire de doubles. Serena Williams, Victoria Mboko. Ça va être sympa pour
moi. Ouais, why not?
Quelle
why
chance. Not. Franchement, Victoria, elle doit être aux anges.
Est-ce que c'est Mboko qui a proposé ou Williams?
Ah, je ne sais pas.
Question.
Effectivement.
On n'a pas la réponse. Hein.
On n'a pas l'info. En tout cas, voilà. On va quand même scruter ça un petit peu. Avant, peut-être un retour en simple. Peut-être une façon aussi de
Peut-être que Wimbledon sera la porte
pourquoi
suivante.
Pas
ouais, ça peut être intéressant, ça.
Une wildcard avec Vénus.
J'aimerais quand même pour un tournoi de double.
Vénus et Serena, quoi. Il faut revenir avec Vénus. Là oui, il faut jouer.
Parce que même beaucoup, c'est bien, mais bon, voilà.
Vénus.
On veut voir les légendes sur le terrain.
On veut revoir la paire.
Ah là là.
Serena Vénus, évidemment, sur un court. Voilà, c'était deux petites infos, vraiment, histoire de parler un peu d'autre chose de Roland, mais c'est vrai qu'évidemment, vous comprenez bien que l'actualité a été largement dominée par le tournoi parisien. Juste avant de se quitter, quand même, Richie, tu nous as préparé un petit quiz.
Qui aura la question?
Non, la réponse.
La réponse 2.
La question.
Mais j'ai pas.
La question?
Non, mais c'est eux. Eux, ils ont la réponse. Enfin, non, ils ont la question et nous, on a... Ça aurait été plus simple qu'on dise quiz.
Ouais, le quiz.
Quiz.
Simon, il rigole tout seul. Son jingle.
J'aime bien.
Ouais, c'est magnifique.
Alors Richard, qu'est-ce qu'il nous dit ce quiz?
Alors, on est en plein tournoi de Roland-Garros.
Donc,
évidemment,
on va parler du Grand Prix à Seine-2.
Quiz, pas du tout Roland-Garros.
Bah, évidemment, c'est sûr.
On a pas déjà parlé pendant 1h27 de Roland, là.
Bah oui.
Donc, on va faire autre chose.
Tout a été dit.
Alors, de quoi tu veux nous parler?
Imaginez que Zverev remporte un grand chelem. Moi, je pense qu'il a très envie de remporter son grand chelem.
Ah, je pense.
Voilà.
Ouais.
C'est
une question. Je m'avance un peu.
Super.
Attention.
Mais
donc, ça lui ferait un grand chelem. Oui. Imaginez maintenant que Zverev devienne numéro 1 mondial un jour.
Il a déjà été.
Faut aller loin là.
Est-ce que
Pardon ?
Hein ? Elle n'a jamais été.
Ah jamais non. Été.
Bah, sûr que non.
Éternel second, c'est mon enfant.
Ah ! Eh non, désolé.
Non, non. Sont dures tes questions pour l'instant.
Ah, c'est pas évident, évident.
Ok, donc il faut imaginer. Là, là,
non, mais, okay. Non, mais, alors, vous allez voir rapidement où je veux en venir.
Vas-y.
Je pense que si on lui dit tu es une semaine numéro un mondial, il signe tout de suite.
Oui.
Oui.
Je pense.
Ah, ouais. Oh, je te vois venir.
On va s'intéresser aux joueurs et joueuses numéro 1. Mais très peu de temps.
Ah, c'est bon, ah, c'est ça. Cool. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool.
J'en ai déjà.
Il y en a eu quelques-uns. Alors, il a fallu fixer une limite, mais voilà, moi, j'ai pas été plus loin que 10 semaines numéro 1 mondial.
D'accord,
ça voilà.
Va. Ok.
Ça fait quand même 2 mois et demi.
C'est pas mal. Bon,
ok, voilà. 10 semaines.
Chez les messieurs, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc, on les cite à la volée, c'est
bon,
ça.
On essaie de les trouver. Voilà. Okay. On essaie de trouver ces 8 joueurs qui ont été numéro 1 mondial moins de 10 semaines, sachant qu'il y en a un qui a été numéro 1 mondial une semaine.
Une voilà. Semaine.
C'est beau. C'est la meilleure semaine de
alors,
sa vie.
Voilà, nous sommes dans l'ère open, évidemment, je le précise.
Donc là, on est côté masculin ?
Là, on est côté masculin et c'est des joueurs.
C'est cool, ça.
Ça reste assez récent. Il n'y a pas de joueurs des années 70. Ah, okay. Si, il y en a un. Il y en a un qui est ancien.
Oula.
Un sur les 8.
Marine, je crois que tu en avais un tout de suite qui te
venait. Bah, Medvedev.
Mais il est plus.
Non.
Mais non, il est plus que 10 semaines. Mais
c'est quoi ?
Bah oui,
ouais.
Ah, t'as voulu faire ta maline là ?
Allez, tiens.
Il a fait 16 semaines.
Ouais, c'est pas non plus.
4 mois.
Alors, ne me demandez pas si c'est consécutif, pas consécutif. Non, c'est au total.
Au total.
On est sur du total.
J'en ai un, je pense, moi. Marcelo Rios.
Marcelo Rios, tout à fait. 6 semaines. Aïe, Pepito. 6 semaines. Marcelo Rios. Ouais, tout à fait.
Choupette.
Ça en fait 1.
Oui, 8, tu as dit ?
Il y en a 8 au total.
J'en ai pas beaucoup plus.
Pas sûr que vous les ayez.
Il n'y a pas le Thaïlandais là, il n'a pas été
Simon ?
Non, moi j'ai pas été numéro 1 moi.
Ah si, tu l'as été mais plus de 10 semaines. Donc
oui,
ça rentre pas
bah,
c'est ça le problème.
C'est ça le problème.
Et on est sur un classement de simple, je précise Simon.
Évidemment.
Bon, qui se mouille
le Thaïlandais là, Sri Chapan, il a pas été numéro 1.
Sri Chapan n'a jamais été numéro 1.
Non, non, j'avais un doute, mais il a jamais été numéro 1.
Est-ce que c'est des joueurs de 2010 par là ?
Bah non, c'est plus vieux.
Attends, 2010,
non ?
Non,
bah non, oui, il y avait les.
Ah, j'en ai peut-être un, mais.
Parce qu'on t'enlève Nadal, Djoko, Federer, t'as plus grand monde quoi.
J'en ai peut-être un.
Dans les années 2000, il y en a quelques-uns quand même. Juan Carlos Ferrero. Eh oui, tout
Ferrero
à fait, le moustique.
Dedans, ouais. Moustique.
8 semaines pour Juan Carlos.
Est-ce que Curtin, il a été numéro 1 ?
Quarten a été numéro 1, mais plus que
plus
ça.
Plus que 10
ouais,
semaines, ouais.
43 semaines
ah.
pour Quarten.
Ah, ouais. Est-ce qu'il y a un autre espagnol ?
Il y a un autre espagnol
Moya
qui a remporté Roland Garros en 98. Carlos Moya, Moya ouais. Tout à fait. Deux semaines.
C'est trop loin. Ça.
Deux semaines. Ah,
c'est
deux semaines, Carlos.
Ah, deux semaines,
c'est le classement. Ouais. Il me semble que c'est juste après son sacre, ouais. Quasiment.
Okay.
Je vous donne celui un peu plus loin dans le temps. C'était John Newcombe.
Ok, John Newcombe.
Voilà, John Newcombe, l'Australien.
J'aurais dit plus, tu vois.
8 semaines. Ouais, 8 semaines.
Ok. Sinon, les autres, on les connaît.
Les autres, vous les connaissez, évidemment.
Il y en a une semaine, t'as dit ?
Une semaine, ouais.
Une semaine.
C'est en quelle année ?
Une semaine, c'était dans les années 90.
Oulou.
À la fin des années 90,
la
je dirais.
Années...
Ou peut-être 2000, mais je n'ai pas la date.
Non, j'en ai un, mais non, mais il a été plus que 10 semaines. Et 8, il a été plus que 10
semaines. Et 8, ouais,
plus que 10 semaines.
Rodic aussi.
Rodic aussi. Plus que 10 semaines, 13 semaines, Rodic.
Ouais,
hein.
Ah, c'est tout.
Plus.
Ouais, je pensais largement plus.
Ouais.
Plus.
Ouais.
90, ah, ça peut être qui dans les années 90 ?
Un joueur australien. Tiens, on parle de Hewitt. Patrick Rafter. Une semaine, numéro 1 mondial, Pat Rafter.
La meilleure semaine de sa vie.
C'est la classe, quoi, quand même. Ouais.
J'ai été persuadé qu'il était resté plus longtemps que ça aussi.
Non,
Pat Rafter, une semaine, d'accord.
Ouais, ouais.
Qui on a d'autres
Allez, nous en reste quelques-uns. Tiens, bah, alors celui-là, quand même, on le connaît. Oui, on le connaît bien. Un russe.
Kafelnikov.
Alors, Kafelnikov.
Il est dedans
Kafelnikov, ouais, qui a gagné Roland Garros en 96. Six semaines. Yevgeny Kafelnikov. Ouais. Il est russe.
Il est russe,
monsieur,
je crois ukrainien. Pardon.
6 semaines.
Mais c'était pas lui, peut-être, dont tu parlais. Si, c'était lui.
Là, je pensais à un autre, mais okay. Voilà.
Un autre
ah,
russe.
Ah, bah si, j'en ai. Bah si. Marat.
Marat Safin.
Ah, bah oui, mais
Marat
c'est
Marat Safin, 9 semaines, numéro 1 mondial. Et je crois qu'il n'en reste plus qu'un
ouais.
Là-dedans.
Et alors là ?
Alors, bah, années 90, alors, c'est quand même un joueur de terre battue assez redoutable à l'époque.
Il a gagné Roland.
Force de caractère qui a gagné Roland. Oui, il a gagné une fois Roland Garros.
Une fois.
Ouais.
Bon, Gomez, non, il n'a pas été.
Gomez,
non. Il y a qui a gagné dans les années 90 ? Courrier.
Il y a Courrier, mais Courrier, non, il
plus que ça. Bruguera, plus que
Bruguera
ça.
Bruguera n'a pas été numéro 1 mondial.
Il n'a pas été numéro 1.
Et entre les deux, entre Kafelnikov et Bruguera, nous sommes en 1995.
Aucune référence.
Simon.
Non, allez, l'hiver, j'en sais rien.
Un joueur qui s'est cassé la jambe, on le voyait s'entraîner là, en tapant la balle avec sa jambe dans le plâtre. Là. Vous n'avez pas cette image pas. Là
j'étais pas né.
Un monstre de la terre battue. Thomas Muster.
Ah, Muster, oui.
Thomas Muster, l'Autrichien.
Pareil, je pensais à plus que 10 semaines aussi, tu vois.
6 semaines seulement pour Thomas Muster. Voilà. Bon, hey, t'es pas facile. Est-ce qu'on s'attente côté féminin ou pas?
Oui, t'as qu'à faire. Allez, on y va.
Côté féminin, il y a plus de récents chez les femmes.
Je pense, oui.
Il y en a 3 en moins de 10 semaines.
3 en moins de 10 semaines.
Il y en a une que vous ne trouverez jamais.
Allez, bah
et là, pour le coup, on n'est pas sur du récent.
Ah,
okay. Voilà. Et puis, elle a un nom très rigolo, mais vous ne la trouverez pas. Bah, c'est celle qui est restée le moins longtemps numéro 1 mondial chez
les femmes. De l'histoire.
Elle est restée 2 semaines. Elle est restée 2 semaines et c'était en 1976.
Oh,
au mois d'avril, pour être précis. Elle a quand même gagné, en simple, elle a quand même gagné 7 grands chelems.
Ah, quand même.
Et ouais.
Et personne ne la connaît.
Bah,
Agnieszka Frutikova.
Non, elle est australienne. Donc elle a un nom qui sonne pas tant australien que ça. Déjà son prénom c'est Yvonne
Goolagong.
Goolagong, tout à fait joli. Yvonne Goolagong.
Pour de vrai.
Ah là, mais il est chaud là. Là il s'est transformé en question pour un champion là. Paf.
Le buzzer. Matraque le buzzer là.
Yvonne Goolagong qui a quand même remporté 4 fois l'Open d'Australie dans les années 70. Une c'est fois Roland, deux fois Wimbledon.
C'est dingue qu'elle ait pas traversé quand même. Enfin, c'est un palmarès, c'est de grand chelem.
Yvonne Goolagong. Alors voilà, une fois qu'on a éliminé Goolagong, il en reste 2 sous les moins de 10 semaines.
Que 2 ?
Plutôt récent, ouais. Plutôt récent.
Plutôt récent.
Bon, on peut quand même dire. Allez, on va monter à 12 semaines, c'est la plus.
Ouais.
12 semaines. Déjà, on a une Espagnole qui a 12 semaines.
Muguruza.
Oui, Muguruza, bonne réponse.
Ah.
4 semaines seulement.
Ah, ouais. C'est tout.
4 semaines seulement pour le garde.
Une Espagnole, 12 semaines.
Muguruza. Et une autre Espagnole.
Ah oui, mais du coup, j'ai peut-être.
À la reine de Roland-Garros, quand même.
Arantxa Sanchez.
Arantxa Sanchez, Vicario.
Ah oui, c'est vrai, Vicario.
Vicario, ouais, 12 semaines pour Arantxa seulement, alors que moi, je m'attendais un peu plus. Et puis, 12 semaines aussi, on a une Serbe. Une Serbe, là, c'était il y a quelques années, c'était il y a très longtemps.
J'ai peut-être, mais.
Voilà.
J'ai l'impression de jouer un peu tout seul.
Ouais,
oui,
seul.
Ouais.
Une Serbe mariée à un footballeur.
Bah oui, voilà, c'est ça. C'est, la... oui, c'est
footballeur
qui
allemand.
À... qui est mariée à Schweinsteiger. Simon, je crois.
Laissez-moi tranquille.
Ah là là, bon, Anna Ivanovic, tout à fait.
Bah, j'allais dire Kournikova, mais du coup, non. Mais
elle n'a pas été numéro 1.
Elle n'est pas Serbe en plus.
Et il en manque une Tchèque, qui est restée 8 semaines numéro 1.
C'est un peu, ça doit dater un petit peu.
Non.
Ah bah si, oui, si.
2017.
Ouais,
bah
je... Ah non.
2017, numéro 1 mondial. Elle n'a jamais gagné un seul grand chelem.
Oui, si, oui, c'est la numéro 1 qui a jamais gagné de grand chelem.
Voilà.
Qui revient ces derniers temps d'ailleurs sur le circuit. Pliskova.
Ah,
Carolina.
Oui, bah oui.
Pliskova, tu l'avais Simon, t'es resté bouche fermée, mais je sais que tu l'avais.
Je ne sais pas comment allumer mon micro.
On t'entend toujours.
On t'entend toujours.
Ah, c'est bon, il marche. Ouais, il remarche.
Voilà, bon, c'était pas facile, mais.
C'était
voilà.
Trop bien comme truc.
Mais donc, Osaka, elle est restée plus que. Elle est restée combien de temps?
J'ai
dans ma tête, c'était
téléphone.
Pas si long que ça, mais.
Bah, quand même. Osaka, elle a quand même gagné 4 grands chelems.
Oui, oui, non, mais. Ouais, j'étais pas à 10 semaines, mais.
Osaka.
Je me demandais si c'était
pas. Allez, vas-y,
je check.
Code.
Osaka, 25 semaines.
Ouais, ce que j'ai dit,
ouais,
au moins
voilà,
25.
C'est pas non plus énorme, quoi.
Mais 10 semaines, c'est vrai que c'est pas très très long.
Oui,
25 semaines. Amélie Mauresmo, 39 semaines.
Eh, voilà, la France.
Cocorico.
Cocorico.
Voilà. Est-ce que Zverev va rejoindre ce club?
Alors, numéro
1. Une semaine.
Des numéros 1, une semaine.
Numéro 1, ça va falloir encore aller chercher des points, quand même.
Et si Sinner est forfait?
Il faut quelques boycotts.
Et Alcaraz est forfait à Wimbledon, et qui gagne.
Si Sinner change de sport là, pour les 2 prochaines années.
Pourquoi pas,
et Alcaraz aussi, ça peut peut-être se jouer.
Ça serait pas mal. ça serait
pas peut-être le faire. Bah merci en tout cas Richard, très très cool ce petit
plaisir,
quiz.
Écoute,
que tu as préparé très rapidement en plus, je crois.
Ouais, mais parfois ça va très vite.
Et,
voilà. Les petites billes McCartney en 8 minutes c'était plié.
C'était plié.
Donc plus c'est un peu pareil.
Paul McCartney, Richard.
Oui, je suis un Paul McCartney de pleine balle.
Voilà,
on peut le dire.
Et ben je crois qu'on va finir l'émission
là-dessus. Je peux être John Lennon.
Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux John Lennon, vas-y. Allez, vas-y, c'est pour toi. Vas-y, prends.
C'est cadeau.
On te le laisse.
T'as un jingle John Lennon ou pas?
Bah oui.
Faute de pied.
Attends, il arrive.
Faute de pied.
Évidemment, John Boujna.
Super, Michel, on t'embrasse.
On le salue.
Michel, on t'embrasse. On sait que t'écoutes, Michel.
Oh, bah, il nous écoute, hein, évidemment. C'est un auditeur de la première heure de cette émission. Cette émission, en tout cas, là, eh ben, je pense qu'on peut la clôturer.
Elle est déjà finie, à 19h37.
Avec seulement 1h37 d'émission.
Oh, ça va, on a fait
franchement, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Simon, est-ce que tu nous envoies un petit bête de fin?
Non, je peux pas, désolé.
Oh là là.
Le bed en baillant.
Franchement,
là,
c'est magnifique. Merci à tout le monde d'être là ce soir. On a réussi à faire une émission au complet. Ça,
c'est
plaisir.
Vrai, ça fait plaisir.
En même temps, on était obligé pour Roland. Dans 15 jours, on se retrouvera du coup pour le débrief de ces finales.
Oui.
De Roland. On parlera de gazon parce que ça y est, là, ça commence.
Bah, évidemment.
On enchaîne tout de suite, ça enchaîne fort. On reviendra sur les premières balles échangées par Serena. Quand même.
Bah, il faudra.
Et puis voilà, on aura tout plein de petites choses à vous raconter.
Faut pas qu'elle se blesse, hein, Serena.
Pas qu'elle se blesse. Ouais.
Ah bah non.
Ah non, faut pas casser le truc là. Non.
Pas de virus non plus.
Pas de virus, hein. Pas d'Arnaldi ou quoi que ce soit.
On casse pas la machine.
On casse pas la machine. Bon, d'ici là, bonne finale de Roland. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver en podcast évidemment. N'hésitez pas à lâcher des petites étoiles, ça fait toujours plaisir.
Lâchez un like
et puis voilà.
Pitié,
voilà, un petit peu sur les réseaux aussi, sur Insta, voilà, etc. On habille un peu, on essaie de faire des trucs, donc on y va quoi. Non, mais voilà,
cri du cœur.
On fait un peu de pub, on en fait pas d'habitude.
Et on félicite quand même le travail d'Enzo sur ce Roland Garros.
C'est vrai, très beau travail, ouais. Très beau récap.
Si on met aussi les problèmes techniques, on avait presque une story par
mais jour. Oui, c'est mais vrai. Mon ordi a décidé d'en faire des siennes là, le deuxième jour de Roland. Je dis, ça commence bien la quinzaine, deuxième jour, mon ordi est mort.
T'as bien tenu, bravo.
Il a réussi, il va tenir, j'y crois.
Est-ce qu'on se quitte ou pas?
Allez, je pense qu'on peut se quitter.
Allez, on y va comme ça.
Bonne soirée à tous.
Salut,
et
tout le monde.
Vive le tennis. Bien. Voilà, surtout, vive le tennis.